premier échec lors du test. Donc ce qui se passe, je me dis, ok, bah, j'ai quand même besoin de valider l'idée d'avoir des gens qui déménagent. Donc le plus simple, c'est d'avoir des gens qui visitent des apparts, donc on va mettre l'appartement à louer sur le bon coin. Enfin, c'est ça le raisonnement à l'époque. Donc on met l'appartement à louer sur le bon coin, même s'il n'est pas du tout à louer, et on commence à faire les visites, etc. Donc on a fait visiter plusieurs dizaines de personnes, et voilà, et on, à tour de rôle, il y en a un qui faisait visiter et l'autre qui disait, voilà mon ami qui teste une idée de start-up, est-ce que ça vous intéresse ? Donc on prend les coordonnées et on essaie d'accompagner les gens lors de leur démarche, pas sur cet appartement-là évidemment, parce que bah, ça ils l'ont pas eu, mais sur les appartements qu'ils ont eu par ailleurs. Et voilà, et on s'est aperçu qu'il y avait une vraie appétence, que les gens étaient prêts à le faire, ça validait le fait qu'on puisse faire des démarches pour eux, qu'ils étaient prêts, qu'ils comprenaient que même si c'était gratuit, il n'y avait pas de loup, et ils étaient contents qu'on le fasse pour eux. Donc voilà, ça a été un premier point important.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères des débuts, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces petits détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis David Baruchel, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bienvenue dans La Galère, je suis David Baruchel, le cofondateur de Start the Fuck Up, et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Philippe de la Chevennerie de Papernest. Salut Philippe.
Salut, enchanté.
Merci de nous accueillir dans les super bureaux de Papernest au Cargo. Et Papernest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme pour gérer toutes vos souscriptions et abonnements, alors l'électricité, le téléphone, l'assurance, pour optimiser vos factures ou lors de vos déménagements. Et tout ça 100% gratuitement.
Exactement.
Bravo. Alors, raconte-nous un petit peu, c'est quoi Papernest aujourd'hui ? Comment vous arrivez à faire ce super service ?
Voilà, donc Papernest, on s'est créé donc à mi-2015 sur la base d'un constat très simple, c'est que bah, auparavant, tu avais un CD, un DVD, une voiture. Maintenant, tu peux louer ta voiture, ta Spotify, Netflix. Donc, le nombre de souscriptions est un peu en train d'exploser. Mm-hmm. Les gens en avaient 3 en moyenne en 2012, ils en ont 6 aujourd'hui en moyenne et ça va monter à peu près une dizaine d'ici à 2023. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, les gens sont liés par un contrat, un espace client qui est différent. Il faut se rappeler de son mot de passe, de son email, il faut comprendre comment ça marche. Voilà. Donc, en fait, les gens ne le font pas. Et donc, dès qu'il s'agit de déménager ou d'optimiser tous ces abonnements, toutes ces souscriptions, c'est de l'enfer et en fait on se retrouve tous avec des souscriptions qui ne servent à rien ou tout simplement des souscriptions qui ne sont pas adaptées à nos besoins. Et donc nous on a fait ce constat-là et on s'est dit il faut impérativement créer une solution, notre mission c'est vraiment de permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur toutes leurs souscriptions et donc on a créé Papernest. Papernest c'est quoi ? C'est une plateforme unique sur laquelle on peut gérer en un clic toutes ces souscriptions, soit l'électricité, le gaz, l'assurance, la box, la redirection courrier, le crédit IMO, Spotify, Netflix, etc. Donc on peut souscrire, résilier, transférer en un clic toutes ces souscriptions et c'est 100% gratuit.
Ok, et du coup, il y a vraiment deux parties. Il y a une partie, toute la partie galère administrative, entre guillemets, pas marrante et qu'on ne peut pas utiliser. Puis il y a tous les autres services un peu plus du quotidien, mais aussi l'abonnement auquel on s'est inscrit sans faire exprès il y a je ne sais pas combien de temps et
exactement.
On a oublié de résilier, c'est ça.
Et donc on est très utilisé par les utilisateurs, bah, soit lors d'un déménagement, parce que lors d'un déménagement il faut modifier tous ses abonnements et c'est déjà assez stressant de déménager. Donc si on doit ajouter un peu la phobie administrative de s'occuper de tous ces contrats, c'est hyper pénible. Donc on a beaucoup de gens qui nous utilisent pour déménager et après de plus en plus tout simplement bah, pour optimiser tous leurs contrats et faire des économies assez significatives. On peut économiser jusqu'à 500 euros par an et par foyer, donc c'est pas ridicule.
Alors, comment ça se passe, cette partie optimisation dont tu parles?
En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, par exemple, les utilisateurs peuvent... C'est une feature qui nous a été demandée il y a 6 ou 7 mois et ça fait 3-4 mois qu'on l'a sortie. Aujourd'hui, bah, en fait, les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte bancaire via Paypernest et donc, on va scanner tous leurs contrats, les mettre dans l'espace client et en un clic, le client peut dire « Ok, bah, en fait, ce contrat-là peut je peux l'optimiser pour économiser 100-200 euros par an et en un clic, on va le faire pour lui. »
Donc, juste avec mon relevé bancaire, vous êtes capable d'identifier tous les abonnements que j'ai derrière.
Exactement. On se connecte directement au compte bancaire. Soit l'utilisateur met directement ses contrats à lui-même et décide de faire une étude d'optimisation de ses contrats. Donc, c'est très rapide.
Optimiser, c'est voir quels seraient des concurrents, d'autres options sur le marché qui me permettraient d'avoir le même service, mais à un meilleur prix.
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, bah pour votre mobile, vous pouvez avoir tel mobile moins cher, vous pouvez profiter de telle promotion, sur l'énergie, vous pouvez réduire de tant de centaines d'euros la facture annuelle, etc. Et ça, sur plein de contrats différents.
Et en plus, si je veux changer, du coup, j'ai besoin d'appuyer sur un bouton sur Paypernest et ça me résilie.
Et c'est ça la puissance, en fait, du modèle, parce qu'en fait, il y a plein de sites qui permettent de dire, oui, vous pouvez économiser tant, etc. Mais en fait, ce qui est hyper important, c'est que les gens puissent le faire en un clic. Et c'est ça la valeur ajoutée fondamentale qu'on a. C'est que il n'y a pas de friction, tout se fait littéralement en un clic. Et c'est ça qui explique aujourd'hui qu'on a un NPS, donc un Net Promoter Score, qui est une mesure de la satisfaction client, qui est extrêmement haut, il est entre 60 et 70, alors que le NPS des fournisseurs d'énergie, de box et d'assurance, c'est moins 10, moins 7 et 2. Donc on met 60 points de NPS dans la vue de l'industrie, voire 70, et voilà. Et c'est quelque chose qui est imprécis.
Parce que quand un NPS est négatif, évidemment, c'est pas bien.
Voilà, exactement. mais avoir un NPS de ce type-là, c'est très très compliqué. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui recommandent très fortement le service à leurs clients et on le voit, on a pas mal de bouche à oreille et donc ça c'est quelque chose dont on est très fier et c'est aussi la raison pour laquelle on existe, c'est parce qu'on simplifie fondamentalement les démarches administratives.
Et alors Paypernest, c'est 100% gratuit. Déjà ça peut surprendre parce qu'on se dit bon, ce genre de service, mais d'un autre côté c'est aussi, je pense, ce que les utilisateurs, les consommateurs attendent, ce genre de service, parce qu'on n'est pas là pour si je suis là pour optimiser, j'imagine mes abonnements, c'est pas pour vous en payer un en plus.
Exactement.
Mais du coup, vous, comment ça marche derrière?
Effectivement, donc c'est 100% gratuit pour l'utilisateur. Les prix sont vraiment les mêmes qu'il pourrait trouver sur le marché. Mais donc en fait, la manière dont ça marche, c'est qu'en fait, on est rémunéré par les fournisseurs à chaque fois qu'on transfère ou qu'on apporte un client. Et donc c'est comme ça. Et pourquoi le fournisseur fait ça? En fait, il sait que ce soit lors du déménagement ou lors d'un changement, comme l'expérience client est bien meilleure avec Paypernest, le client va rester plus longtemps et donc avoir plus de valeur pour le fournisseur.
Oui, et puis en plus, il a choisi ce fournisseur un peu en connaissance de cause cette fois-ci, puisque il avait un peu ses critères, il avait différentes possibilités, c'est celui-là qu'il a choisi. Donc a priori, c'est pas un manque de transparence du marché qui a fait qu'il est arrivé là. Ou une pub Google Ads sur votre site ou je sais pas quel lien d'affiliation que vous auriez pu mettre. Donc c'est du très qualifié pour les fournisseurs.
Ouais, on apporte des clients directement et donc voilà, donc le client interagit intégralement avec la plateforme Paypernest jusqu'à ce qu'il soit client, qu'il y ait l'électricité, le gaz, l'assurance, etc. Ensuite, quand c'est bien fait, on va s'effacer au profit de la relation avec le fournisseur. Mais voilà, c'est nous qui faisons vraiment tout de A à Z pour le client.
Et du point de vue client, il n'y a pas une méfiance par rapport à ça?
Alors le côté gratuit, effectivement, parfois engendre de la méfiance. Alors il y a ce côté un peu c'est trop haut pour être vrai, mais ça reste 100% vrai. Voilà. Mais au global, effectivement, c'est quelque chose avec lequel on a un peu lutté au début. Maintenant, on a trouvé la bonne manière de présenter, de parler aux clients. C'était pas évident au début. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à bien maîtriser ça. Et donc, on a eu une très forte croissance depuis nos débuts il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, on sait bien marketer ça auprès des clients.
Et j'imagine une véritable transparence sur le fait que les fournisseurs que vous mettez en avant sont pas sélectionnés par vous parce qu'ils vous rapportent plus d'argent, mais parce que c'est les bons pour le client.
Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on essaye sur à peu près 4 verticales d'avoir les fournisseurs majeurs sur la verticale qui à la fois permettent de couvrir tous les besoins clients, c'est-à-dire des offres à prix fixe, des offres moins chères, des offres avec un excellent service client, et voilà, et qui à chaque fois sont un bon rapport qualité-prix, sont un peu les meilleures offres de la segmentation. Et donc, ce qui nous permet de proposer aux clients en fait les meilleures offres, c'est-à-dire une box ultra rapide si c'est un gamer et qui veut très peu de délai sur ces jeux, un fournisseur d'énergie très peu cher si la personne veut juste du prix, une assurance avec un excellent service client et des bons premiums si quelqu'un veut service client de qualité. À chaque fois, en fait, on va, en fonction des besoins de l'utilisateur, adapter le fournisseur qu'on va lui recommander. Et après, si l'utilisateur veut un autre fournisseur, on va quand même le lui souscrire.
Et j'imagine qu'avec la quantité de fournisseurs ou de segments de marché que vous adressez
et la quantité d'offres que proposent eux-mêmes ces fournisseurs, ça doit être un sacré travail de recenser en permanence.
Ouais, alors il y a un gros travail de recensement, il y a aussi un encore plus gros travail de pouvoir justement pouvoir souscrire de manière un peu fine et adaptable à ça, et arriver aussi à simplifier et à présenter de manière objective. Voilà. Enfin, en fait, les offres. Par exemple, il y a des offres de télécom avec, je sais pas, qui ont un prix X, mais il y a 3€ en plus pour la box, etc. Donc nous, on affiche les prix totaux, pas juste le prix un petit peu marketing, et on essaie d'être très clair par rapport aux conditions, si oui ou non le prix va rester comme ça ou augmenter au bout de 12 mois. On essaie d'apporter un peu de la clarté à l'utilisateur.
Ok, très clair. Et du coup, en termes d'entreprise, vous êtes combien pour faire tourner un modèle comme ça? Vous êtes que en France pour l'instant?
Alors, on est en France et alors aujourd'hui, on sert les marchés français, espagnol, italien et on est au Royaume-Uni aussi. On est basé essentiellement entre Paris et Barcelone. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 800 collaborateurs. Voilà, et sachant qu'on était 300 en mars 2020, donc on a fait quasiment un x3 en un an. Voilà, parce qu'on a une croissance assez forte. Et donc on continue à recruter pas mal. Ça a été un peu compliqué pendant le confinement parce que les gens utilisaient moins le service, mais on a quand même fait le pari de continuer à miser sur la croissance et c'était un pari gagnant. Donc voilà, donc aujourd'hui on est quand même relativement bien établi. On a fait une levée de fonds il y a 4 ans maintenant auprès de Partech Invest après avoir fait quasiment 2 ans en bootstrapping total. Donc voilà, donc aujourd'hui on commence à toucher de plus en plus d'utilisateurs et on a eu plus de 800 000 clients en cumulé depuis la création de Papernest.
Un beau chiffre.
On s'y emploie.
Ça va grossir. J'imagine que à chaque fois, un nouveau pays égale des nouvelles contraintes, égale des nouveaux fournisseurs.
Exactement.
Des galères.
En fait, il faut tout recréer dans chaque pays. Il faut re-signer les partenariats avec les fournisseurs, leur faire comprendre la plus-value de notre modèle, qui est un modèle qui est nouveau. Il faut recréer des canaux d'acquisition. Il faut remettre en place un produit, un service client et s'assurer de bien s'adapter aux us et coutumes du pays. Donc oui, c'est pas mal le travail. Après, le besoin auquel on répond, c'est un besoin universel. La phobie administrative, c'est présent partout. Et donc,
de plus en plus dans les générations qui arrivent.
Exactement.
Et puis aussi, une tendance aussi peut-être un peu de fond qui a de plus en plus, comme tu le disais tout à l'heure, de business models serviciels ou de business models qui sont sur de l'abonnement plutôt que de la propriété vraiment d'un actif. Et du coup,
Exactement. On est vraiment en train de passer de un peu de l'ère de la possession à l'ère de la souscription. Les gens avant, possédaient des CD, des DVD.
En marketing, on dit l'ère de l'expérience.
L'expérience peut être via la possession ou la souscription. Mais donc, c'est aussi vrai, mais je pense que c'est une modalité un peu différente. Et voilà, le nombre de souscriptions va plus que doubler en l'espace de moins de 10 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'aller très vite. Et il y a l'adage « software is eating the world », mais maintenant c'est « subscriptions are eating the world ». Enfin, c'est vraiment ça.
Et vous tournez que en B2C? Vous adressez que des consommateurs finaux?
Alors, on adresse des consommateurs, des particuliers et aussi des pros, essentiellement des petits pros qui tombent un peu, qui sont intéressés par le service et l'utilisent comme un particulier utiliserait. On cible pas encore les gros pros parce que c'est des processus opérationnels extrêmement particuliers. On est en train de se poser des questions dessus parce que nous, notre obsession, c'est vraiment d'avoir un excellent service client et donc à chaque fois qu'on va se lancer sur un segment en particulier, on veut vraiment avoir les bonnes intégrations, avoir l'expérience client qui est optimale et ça, ça implique de dédier pas mal de temps et de réflexion à comment s'assurer de délivrer un service irréprochable. Et donc, ça demande de se connecter à pas mal d'API, de créer des scrappers quand il n'y a pas d'API. Et voilà, donc on essaye de pour l'instant surtout se focaliser sur le B2C parce que c'est là où il y a le plus de potentiel. Après, on a travaillé aussi pas mal en B2B2C parce qu'on se distribue pas mal via des différents partenaires qui recommande notre solution auprès de différents, des clients. Notamment lors de l'emménagement, on a plus de 10 000 agences immobilières aujourd'hui qui préconisent le service Papernest à leurs clients.
Bravo, des beaux partenaires. Et ça, c'est sûr que vu l'intensité que vous mettez derrière le service client, c'est toujours plus facile d'avoir des beaux apports d'affaires derrière. Les objectifs aujourd'hui, un peu, enfin la strat de Papernest là à venir, ça ressemble à quoi ?
En gros, on est encore, on a plusieurs piliers de croissance. Le premier, c'est de continuer à scaler ce qu'on fait déjà. On a un produit qui satisfait nos utilisateurs. On arrive à générer pas mal de traction dessus. Donc, on veut continuer à grossir sur ce qu'on fait déjà, avoir de plus en plus de clients. Et on a encore une part de marché qui est faible en France par rapport à ce qu'on pourrait avoir. On peut faire x10 sur la France sans problème. Deuxièmement, l'international. On va évidemment continuer à se développer dans d'autres pays et on va essayer de lancer de nouveaux pays cette année. Le Covid a ralenti un peu le développement international, mais on pense que ça va de nouveau s'accélérer. Trois, le produit. On commence justement à permettre de plus en plus de features. Justement, là, on nous a demandé ça il y a quelques mois. On a demandé à connecter les comptes en banque à Paperness pour pouvoir scanner tous les contrats et pour pouvoir être au courant des prochaines réductions, ce genre de choses. Donc ça, on l'a mis en place. On va continuer à investir énormément dans le produit pour développer des nouvelles features pour arriver à ravir de plus en plus nos utilisateurs. Et quatre, c'est étendre notre offre, c'est-à-dire rajouter chaque année des nouvelles verticales. On vend de l'électricité, du gaz, de l'assurance, etc. Et donc, on veut vraiment être un peu le Amazon des souscriptions, que toutes les souscriptions, tout l'administratif puisse se gérer sur notre plateforme. Et donc, ça implique chaque année de lancer de nouvelles verticales.
Ok, super clair. Merci beaucoup. On va revenir un petit peu en arrière. On va revenir au tout début et aux toutes premières galères. Déjà, d'où ça t'est venu, toi, personnellement, de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire quand tu étais en études, en école ? Je veux monter ma boîte ? Ou ça t'est un peu tombé dessus ?
Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je sais pas si c'est une vocation, mais depuis que j'ai l'âge de 15 ans, quand je me suis toujours projeté dans l'avenir professionnel, je me suis toujours demandé ce que je ferais plus tard, je me suis toujours visualisé comme étant entrepreneur. Alors j'ai pas commencé comme entrepreneur au tout début de ma carrière, mais
il y avait des gens, pardon, excuse-moi si je reviens sur ce point, il y a des gens dans ta famille qui t'inspiraient ce modèle-là, il y avait d'où ça devenait cette inspiration? Moi à 15 ans, j'entrepreneuriais start-up n'existait pas, entrepreneur, je connaissais pas.
Mais non, j'ai pas vraiment de rôle modèle comme on dit là-dessus. J'ai pas spécialement d'entrepreneurs que je connaissais directement ou dans ma famille, en tout cas que je connaissais à l'époque. Donc je sais pas d'où ça sort pour être honnête, mais voilà, c'est toujours été un peu quelque chose qui m'a animé. J'ai toujours eu un peu ce petit grain, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc ça a continué à me travailler quand j'étais en école, quand j'ai commencé à travailler aussi. Et voilà, j'étais toujours à la recherche d'idées pour essayer de me lancer. Et j'ai fini par trouver cette idée-là et on s'est lancé avec mon associé en 2015. Et on a eu bien raison de le faire depuis parce que ça marche plutôt pas mal.
Alors raconte-nous comment c'est arrivé un petit peu. Tu disais que tu avais commencé déjà une carrière avant.
Absolument, ouais. Donc j'ai commencé à travailler en cabinet de conseil, donc chez McKinsey, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Donc pendant un peu plus de un an et demi quasiment. Qui était hyper intéressant d'ailleurs. Enfin, j'ai vu plein de secteurs, plein de domaines, etc. À l'époque, quand je suis arrivé là-bas, j'avais déjà failli commencer à créer une boîte en sortant d'école, mais j'avais choisi de finalement pas le faire parce qu'en fait c'était un business model qui devait se faire dans des aéroports. Il y avait déjà un compétiteur qui s'était lancé. Enfin, c'était un copycat en fait d'une boîte américaine. Il y avait quelqu'un qui s'était lancé à Roissy, un autre à Charles de Gaulle et un autre à Beauvais, donc ça comptait à limiter sérieusement mes opportunités. Donc j'ai finalement décidé de faire du conseil, mais je cherchais toujours une idée et voilà. Et donc j'ai continué à chercher, j'ai eu quelques idées. L'idée Paperness m'est revenue parce qu'en fait j'avais déménagé une fois et ça avait été un drame absolu. Et donc je m'étais juré que plus jamais ça se passerait comme ça.
C'est quoi un drame absolu?
En fait, c'était à l'époque où je travaillais j'avais fait un stage en fusion acquisition, donc ce sont des stages assez intenses où je partais généralement dans le meilleur des cas à minuit, en moyenne à 3h du matin et parfois à 6h du matin. Et donc c'était le premier logement que je prenais et donc je savais pas qu'il fallait mettre l'électricité, le gaz, la box et ni s'assurer. Donc j'ai failli me faire jeter dehors par le propriétaire parce qu'en fait normalement au bout d'une semaine il m'a dit vous avez intérêt à m'envoyer votre attestation d'assurance parce que sinon j'ai pas le droit de vous le louer. Le problème étant que j'arrivais pas, il y a très peu de souscriptions en ligne à l'époque, enfin ça remonte à pas si longtemps que ça, quasiment 10 ans maintenant, mais à l'époque c'était assez peu digitalisé et donc fallait appeler les services et moi la journée je travaillais et quand je sortais 3h du matin, c'était impossible pour moi de souscrire un truc comme ça, quoi. Et donc j'ai bien galéré à le faire et voilà. Et ensuite je me suis fait couper l'électricité dans l'appartement parce que j'avais pas non plus souscrite. Donc j'étais un petit peu jeune et phobique administratif et comme pas mal de gens qui font ça pour la première fois, j'avais pas la moindre idée qu'il fallait le faire. Et donc ça avait été cumulé avec un stage.
Ça se faisait pas sur Internet, donc.
Ouais, exactement. C'était un peu compliqué et cumulé avec un stage assez exigeant. Voilà, j'ai passé 2 ou 3 semaines sans eau chaude à travailler comme un fou, et donc je me suis dit mais pourquoi il n'existe pas une plateforme où on pourrait tout gérer. Donc ça, c'était pendant mon premier stage. Et quand j'étais en conseil, voilà, je me suis rappelé une nuit de cette expérience-là et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas idiot, il y a un truc à faire, quoi. Donc le lendemain, j'avais eu l'idée un vendredi soir, et le lendemain, je suis dans le parc de Luxembourg avec mon petit calepin et j'ai commencé à poser des questions aux gens. Est-ce que vous seriez prêt à payer, je crois que j'avais demandé 50 euros pour qu'on s'occupe de vos démarches administratives. Et là, tout le monde m'a dit non, en fait. Donc c'était un petit peu décourageant. Voilà, et j'ai continué à y réfléchir et j'ai un peu réinventé l'eau chaude, au sens où en fait le business model était évident mais je l'avais pas vu, et c'était quelque chose que je connaissais pas. C'était en fait les fournisseurs sont prêts aussi quand l'expérience client est bonne et quand les clients sont de qualité à payer pour acquérir des clients. En fait, quasiment tous les business sont prêts à le faire. Et donc voilà, c'est comme ça que l'idée a commencé vraiment à germer. Je me suis dit que peut-être les fournisseurs seraient prêts à le faire.
Comment tu t'es rendu compte de ce business model si tu n'y avais pas pensé au début?
Là, c'est vraiment en réinventant la roue, alors que c'est stupide, hein, parce que c'est un business model qui est évident, qui est vieux comme le monde et qui aurait dû me parler, mais je le connaissais pas. Donc je me suis dit, est-ce que les gens seraient prêts à, de manière très candide, très naïve, je me suis demandé si les fournisseurs étaient pas prêts à payer pour avoir des clients.
Oui, tu t'es dit, si c'est pas le client qui paye.
Ouais, il faut que ce soit quelqu'un d'autre.
Voilà.
Sinon, okay. L'idée aura peu de valeur. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à aller démarcher des fournisseurs, prendre des cafés avec des mecs qui travaillent là-bas et tout. Et il s'avérait que oui, effectivement, les fournisseurs sont prêts à payer pour avoir des nouveaux clients.
Attends. Je mets au ralenti. Là, on était le samedi matin dans le jardin du Luxembourg. T'as compris que les gens voulaient pas payer 50 balles pour ton service, pour ton idée, ouais. Déjà, ouais. De service très préliminaire. Quelques temps après, tu comprends qu'il y a peut-être cette opportunité d'autres business models. Tu fais quoi? Tu contactes qui? Tu les trouves comment?
Ouais, donc en gros, il m'a fallu une bonne semaine ou 2 semaines. J'ai pas été hyper rapide, tu vois, pour
itérer
sur mon idée. Et alors, à ce moment-là, donc j'ai commencé à me dire, il faudrait que je commence à en parler à des gens. Je commence à parler à 2-3 personnes. Je m'adresse aux mauvaises personnes. Je me dis, tiens, l'énergie doit être distribuée par Enedis. Enedis, c'est le distributeur d'énergie qui n'est absolument pas un fournisseur d'énergie. Donc, je contacte des gens et mes questions tombent totalement à plat parce qu'en fait, je contacte pas du tout les bonnes personnes. Et donc, ensuite, je me dis, je vais quand même étudier un peu le marché. Donc, je passe un week-end ou deux à cruncher un peu sur le web pour comprendre comment ça marche, qui sont les bonnes personnes. Et là, ensuite, je me dis, maintenant, il faut que je parle à des gens, des vrais gens, pour arrêter de procrastiner dans ma chambre et aller voir le monde réel. Et donc là, j'essaie de mapper sur LinkedIn des gens qui bossaient chez Bouygues Télécom, Direct Assurance, Total Direct Énergie. Et à l'époque, je me dis, je vais essayer d'utiliser le réseau de mon école ou le réseau de connaissances communes, etc. Ce que j'ai fait, sachant que d'ailleurs, avec le recul aujourd'hui, c'est pas quelque chose de forcément nécessaire. En fait, j'ai envoyé plein de mails à plein de gens. Je me suis pris sans doute un nombre de vents monumental, mais virtuel, parce que
ils répondent pas.
La moitié des gens n'ont pas répondu, on va dire. Mais l'autre moitié m'a répondu et a été hyper sympa. Et en fait, aujourd'hui, je continue à faire ça. Quand j'ai des questions, je contacte des gens que je connais pas. J'utilise même pas des réseaux et ça marche très bien. Donc en fait, pour les auditeurs, potentiellement, ça peut être un learning. C'est que il faut vraiment pas hésiter. Alors vous allez vous prendre plein de vents, mais qui vont rester des vents virtuels, donc ça reste pas très douloureux. Et il y a plein de gens qui vont en fait être hyper disponibles et vous aider à répondre à vos questions, faire des introductions. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir, parce qu'en fait, parfois on a peur, on dit qu'on dérange, mais non, les gens, ils sont dans des grands groupes, ils sont en train de faire leur job qu'ils font depuis plusieurs années. Et en fait, ça les intéresse de voir un nouveau projet s'ils pensent que derrière, la personne est un peu sérieuse, quoi.
Et même si j'insiste un peu sur ce point, parce que nous, c'est un point auquel on sensibilise beaucoup aussi les entrepreneurs et les intrapreneurs qu'on accompagne. Quand tu t'adresses à des cibles en B2B, notamment dans des grands groupes, si tu as bien fait ton ciblage, si tu as bien trouvé la bonne personne à qui parler, en fait, c'est littéralement son job de te rencontrer et de te parler, de répondre à tes questions et de potentiellement rentrer dans un business avec toi. Et ça, je pense que c'est un déclic qu'il faut avoir, que non, tu n'es pas en train de déranger l'autre personne, tu es en train de lui permettre de faire son job. Ça fait partie de sa description de poste, en fait, de te rencontrer. Et je pense que ça, c'est important, et du coup, je me permets d'insister, hein. Mais oui, en effet, c'est pas une question de celui qui a le plus gros réseau peut avoir le plus d'informations au début d'un projet comme ça. C'est celui qui Bah, et le plus prêt à se prendre des vents, comme tu dis. C'est aussi comme ça que tu ouvres des portes, quoi.
Exactement. Et je pense qu'à l'époque, hein, j'étais pas bon du tout en ciblage, donc j'ai contacté plein de gens dont c'était pas le job. Mais même parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont hyper sympas, qui sont prêts à prendre un quart d'heure, une demi-heure par téléphone, à prendre un café.
Pour te recadrer, pour t'orienter vers la bonne personne.
Exactement. Et voilà. Et donc, en fait, on progresse dans les organisations un peu sans voir exactement où ça passe. Voilà. Et après, faut pas non plus, faut pas se décourager, parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai envoyé ça un mail, enfin, j'avais envoyé plein de mails et j'en ai envoyé notamment un à quelqu'un dans une grande banque. J'ai eu une réponse un an plus tard et le mail avait été forwardé à 10 personnes successives différentes, littéralement, hein, j'invente rien, mais un an plus tard, j'ai eu une réponse.
Génial.
Et j'ai pu rencontrer la personne. Donc parfois, voilà, les mises en relation ont une vie et un an plus tard, la bouteille qu'on a lancée revient avec une réponse et c'est assez drôle de le voir, quoi.
Mais l'autre chose, c'est que aussi dans ce genre de cas, en général, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais nous, on a tendance à dire que la relance, c'est la clé. Mm-hmm. C'est-à-dire parce que c'est pas parce qu'on t'a pas répondu une première fois qu'il faut arrêter, tu peux relancer une deuxième, une troisième, une septième parfois.
C'est vrai, c'est
vrai. On va te répondre en disant désolé, j'étais juste pas dispo, quoi.
Je le faisais moins à l'époque, mais c'est tout à fait vrai aujourd'hui, hein, je le conseillerais tout à fait, quoi. Et donc voilà, et donc via ça, avec un targeting plus ou moins lâche, j'ai commencé à parler à plein de gens et j'ai fini par rencontrer les bonnes personnes, le directeur commercial de Bouygues Télécom, le directeur commercial de Direct Assurance, un des fondateurs et directeur général de Direct Energy à l'époque. Et voilà, et donc plein de gens m'ont parlé, et plein de gens étaient hyper intéressés et c'est comme ça qu'on a pu valider qu'en fait, ouais, il y avait une vraie appétence des fournisseurs pour aussi ce type de service.
Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, là, tu as validé la désirabilité de tes vrais clients et non pas... Alors, au niveau consommateur, t'étais pas encore sûr après ton expérience du Luxembourg, mais en soi, tu avais trouvé ceux qui étaient prêts à payer.
Exactement. Alors, c'est nos vrais clients, c'est les deux, hein. Enfin, les gens qui nous payent, qui sont les fournisseurs, mais les vrais clients, c'est les deux parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, on porte une attention toute particulière à ce que les deux soient contents parce que le business model ne peut pas exister ni sans l'un ni sans l'autre. Donc voilà, donc de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande.
Alors t'es passé de jeu à on.
Alors voilà, et donc je me suis aperçu et voilà, et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, il y a un potentiel et j'étais à l'époque tout seul et donc j'ai commencé à partir à la recherche d'un cofondateur parce que voilà, je me sentais pas de le faire tout seul. Je pense que l'entrepreneuriat c'est dur et je pense que c'est vraiment très positif quand même d'avoir un ou plusieurs associés parce que se lancer tout seul c'est pas évident. Voilà, après il y a des études qui montrent que finalement les solo founders s'en sortent pas si mal, mais en tout cas moi je suis extrêmement heureux de pas être un solo founder parce que sans Benoît Fabre, donc mon associé, je pense que la boîte n'en serait absolument pas où elle en est aujourd'hui.
Alors comment tu fais pour chercher déjà, qu'est-ce que tu cherches, comment t'analyses ce que toi t'apportes comme compétence, est-ce que t'analyses ce que quelqu'un d'autre peut apporter, est-ce que tu es juste sur le fit, sur l'adéquation entre les deux profils, qu'est-ce que tu as cherché, comment tu as trouvé?
Donc assez rapidement, moi je me rends compte que oui, ce que je peux apporter c'est des capacités de business dev, je me dis que je peux apprendre aussi plein de choses, etc. Mais je me dis aussi que là où je suis pas bon, c'est assez classique, hein, c'est sur la tech. Alors je suis un ingénieur, hein, mais je codais assez peu, maintenant je code un peu plus. Et donc voilà, je me dis que côté à la fois tech et opérationnel, j'ai pas spécialement les compétences. Et donc j'ai commencé à regarder dans mon réseau et donc voilà, donc très rapidement j'avais identifié Benoît comme étant potentiellement un excellent cofondateur et on se voyait régulièrement, mais je le rencontre à une soirée assez rapidement et voilà, donc je lui parle du projet, là il me dit que lui aussi il est intéressé, que voilà, il avait déjà eu un mini projet entrepreneurial auparavant et donc il est intéressé pour lancer une aventure. Et donc on se donne rendez-vous, on prend un café, donc au café de l'Odéon exactement. Je lui envoie les slides que j'avais faites sur le marché, etc. Et en fait ça s'est fait très simplement, très naturellement, très rapidement, Benoît était on board et on a commencé à bosser ensemble, hyper vite. On était tous les deux en poste, donc on bossait les week-ends sur le projet et la semaine sur notre job. Mais donc on a commencé à bosser ensemble et ce qui était hyper positif parce qu'en fait on a pu voir comment on bossait chacun, ce qu'on voulait, on a pu aussi un peu jauger la manière dont on travaillait, jauger aussi notre degré d'engagement qui était très fort et donc on a pu voir qu'on était très alignés et que on pourrait bien bosser ensemble, quoi. Mm-hmm. Et donc en fait, ça a été une chance très très forte quand même, je pense, de trouver la bonne personne très rapidement. Et on est aussi à la fois de formations extrêmement proches. Enfin, Benoît, il a fait Supélec et le SCP. Moi, j'ai fait XHEC. Mais en revanche, on a aussi des appétences et des forces qui sont très complémentaires. Benoît est excellent sur l'opérationnel, sur la tech, sur la mise en place de process robustes au sein de la boîte qui nous permet de scaler hyper rapidement. Alors que moi, je suis beaucoup plus sur le marketing, le business dev et trouver aussi un peu des pépites pour arriver à les faire croître. Et donc, c'était pas évident qu'on sache ça au début lorsqu'on a commencé à se parler, etc. Mais in fine, on a eu beaucoup de chance. Je pourrais pas mettre ça sur le compte d'un process ultra rigoureux. Voilà, malheureusement, c'est, je pense, plus de la chance. Mais en tout cas, quand on a de la chance, faut la saisir. Et on a été tous les deux, on l'a saisi.
T'as des conseils sur comment approcher, quand t'as un profil plutôt commercial, comment approcher un profil plutôt tech? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la fameuse chimère de j'ai fait une école de commerce, j'ai tout fait, j'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à coder le truc, maintenant je cherche un CTO. J'ai l'impression que c'est un problème récurrent, et pour moi il y a deux problèmes. Certes, il y a peut-être moins de profils techniques disponibles, ou peut-être qui sont plus difficiles à trouver ou à intéresser. Mais justement, comment tu fais pour intéresser ou aborder quelqu'un qui a un profil technique?
Ouais, alors c'est effectivement un problème qui est assez fort, parce que généralement, les groupes d'amis qu'on a quand on est jeune, etc., c'est des amis qu'on s'est fait en école, etc. Donc, par définition, sur des formations assez similaires aux siennes. Donc, en fait, généralement, le cercle proche a des compétences et des skill sets qui sont très similaires aux siens. Et ça, c'est mauvais. Il ne faut pas s'associer avec quelqu'un qui est similaire à soi, parce que en fait vous allez aimer faire la même chose et vous allez ne pas aimer faire la même chose. Et il faut bien que vous allez vous disputer sur les choses que vous aimez bien, ce que chacun a son avis et veut le faire, et inversement, personne ne va prendre des sujets importants. Donc c'est hyper important d'être complémentaire. Donc une fois que j'ai dit ça, je ne résous absolument pas le problème de comment trouver l'associé. Je pense qu'il ne faut pas juste arriver en mode « oui, j'ai un projet, rejoignez-moi », il faut expliquer son projet. Parce qu'en fait, la personne, enfin, soit c'est quelqu'un qu'on connaît de son réseau, donc là, la personne peut venir parce qu'elle connaît la personnalité et donc elle peut dire « ok, je le connais, je trouve qu'il est bien, je peux m'associer avec ». Soit la personne cherche un associé en dehors de son réseau, parce qu'il y a la personne dans son réseau qui peut fitter. Et donc là, il va falloir commencer, je pense, à attirer sur le projet. Il faut détailler le projet, montrer le potentiel. Et je pense que montrer aussi qu'on a commencé à faire du travail, qu'on a commencé à avoir des premiers éléments, qu'on a fait des tests, etc., c'est important, parce que les gens vont toujours être beaucoup plus séduits par un projet où ils sentent que le train est en train de partir, donc faut y aller, plutôt que par viens ensemble, j'ai une idée un peu vague, on peut la développer ensemble, quoi. Enfin, l'idée un peu vague, on peut la développer avec quelqu'un qu'on connaît, qui vient de son réseau, et on peut dire « ok, je connais cette personne-là, je lui fais confiance ». Si en revanche on cherche pas dans son réseau, soit on est très impressionné par la personne et on se dit ok, bah je pense que c'est quelqu'un de bien, mais c'est pas évident de le savoir si on n'a pas, on la connaît pas bien. Soit dans ce cas c'est le projet qui doit séduire, et donc un projet il faut qu'il soit d'autant plus abouti, et donc il faut commencer à travailler avant pour, je pense, attirer des bons talents.
Tout à fait d'accord. Merci pour ce petit point. En effet, l'erreur qu'on a tendance à voir. Inversement, il y a aussi le côté sectoriser, je pense, le profil de l'associé, enfin mettre trop de contraintes sur le profil de l'associé qu'on cherche. Tu as des CEO qui vont dire cherche un CTO qui est capable de développer en React et machin et truc, et j'ai déjà fait toutes les maquettes, il n'y a plus qu'à coder, quoi.
je pense qu'il faut chercher un associé, pas un exécutant. Il faut chercher un associé, et en tout cas le critère de l'associé est mille fois plus important que le critère de la techno, donc faut pas prendre un associé parce que lui code en React, quoi.
Ok, trop cool. Donc là, t'as réussi à faire ton premier, construire. Ça y est, t'es passé d'un entrepreneur à une équipe. t'as identifié des clients côté fournisseur. Mm-hmm. Mais en soi, t'as toujours rien.
Alors exactement. À l'époque, qu'est-ce qu'on a ? C'est on a 10 slides. On est deux futurs associés, parce que pour l'instant, on est toujours en train de travailler, donc on travaille les week-ends. Donc maintenant, ce qu'on s'était dit, c'est on veut deux milestones pour faire le saut, parce que on avait des super jobs job hyper intéressant qu'on adorait. Et donc, bah, on s'est dit, si on va dans un projet, il faut qu'on, quand même, qu'on se prouve un peu qu'il y a un potentiel. Donc, on se donne deux facteurs clés à atteindre. Le premier, c'est d'avoir des lettres d'intention d'au moins un fournisseur d'assurance, de télécom et d'énergie. Et donc, pour valider, formellement qu'il y a un vrai intérêt côté fournisseur. Et deux, on se donne comme objectif, de pouvoir avoir des premiers clients, de faire les démarches pour des premiers clients, avant même de créer la boîte pour vérifier si les clients sont appétents à notre service.
Comment t'as vérifié que c'était faisable déjà de... Donc là, on était sur l'usage du déménagement.
Mm-hmm, d'accord. Tout à fait.
Comment t'as vérifié que c'était faisable de résilier pour le compte de quelqu'un d'autre tous ces abonnements et...
Alors ça, c'est pas compliqué. Hein. On a résilié pour d'autres personnes. Enfin, on a fait des tests. Enfin, on a pris des gens qu'on connaissait et on a regardé si on pouvait le faire. On a souscrit pour d'autres personnes. Donc voilà. Donc on a juste testé en conditions réelles et on s'est aperçu que c'était vrai. Enfin, que c'était possible. Et on a aussi posé des questions aux fournisseurs. Ils ont dit oui, a priori. Pas de problème, etc. Donc on a regardé, c'était une question qu'on s'est posée. Assez rapidement, on s'est vu que c'était pas la question primordiale parce que en fait ça passait sans problème. Donc parfois, effectivement, quand on est entrepreneur, on se dit qu'il y a peut-être des gros problèmes et en fait pas du tout. Et donc c'est pour ça que c'est important de tester et d'itérer parce que c'est en faisant ça qu'on s'aperçoit quels sont les vrais problèmes et c'est aussi comme ça qu'on s'aperçoit que parfois des choses qu'on s'imaginait être des gros obstacles en fait ne sont rien et c'est pas là où on va devoir consacrer son énergie. Donc voilà, donc on veut valider ces deux milestones. Donc le premier c'est avoir valider qu'il y a une appétence client pour ça. Et donc ce qu'on fait c'est que on prend mon appartement que je louais et on le met à louer sur le Bon Coin. Alors j'ai pas du tout l'intention de quitter mon appart. L'histoire initiale c'est qu'on essaye d'abord d'accompagner des agents immobiliers pour pouvoir interroger leurs clients et faire leurs démarches, OK. Sauf que j'avais contacté 4-5 agents immobiliers, ils m'ont tous envoyé chier pour faire simple, et donc j'ai pas réussi à le faire. Donc je me dis j'ai essayé la méthode.
Tes nouveaux partenaires en B2B2C du coup.
À l'époque, les premiers là, ça n'avait pas bien marché. Ils m'en avaient déjà identifié le potentiel, mais à l'époque on n'avait pas réussi. Ils avaient dit j'ai pas de temps à perdre.
Mais comme quoi les partenariats au début, excuse-moi, je t'interromps, mais les partenariats au début c'est toujours dur, et je trouve que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à se dire non mais ça c'est bon, on va le faire en partenariat, etc. Et je voulais faire le point sur le fait que oui, la recherche de partenariat ça marche. Une fois que tu as des clients en général, une fois que tu as prouvé ta proposition de valeur.
Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, nos partenaires agents IMO, on a mis plus de 2 ans avant d'arriver à le faire marcher. C'est-à-dire qu'on a commencé à refaire des partenariats, ça marchait pas du tout, ça envoyait pas de clients, ça transformait pas, etc. Donc on a mis 2 ans avant de trouver la bonne formule, même si on avait identifié qu'il y avait un gros potentiel là-dessus. Il a fallu 2 ans avec une dizaine d'échecs avant d'arriver à trouver ce qui marchait, et là on l'a fait marcher. Wow. Voilà, mais en tout cas, voilà. Et donc, premier échec lors du test. Donc, ce qui se passe, je me dis, j'ai quand même besoin de valider l'idée d'avoir des gens qui déménagent. Donc, le plus simple, c'est d'avoir des gens qui visitent des apparts. Donc, on va mettre l'appartement à louer sur le Bon Coin. Enfin, c'est ça le raisonnement à l'époque. Donc, on met l'appartement à louer sur le Bon Coin, même s'il n'est pas du tout à louer. Et on commence à faire les visites, etc. Donc, on a fait visiter plusieurs dizaines de personnes. Et voilà, à tour de rôle, il y en a un qui s'est visité et l'autre qui disait, voilà, mon ami qui teste une idée de start-up, est-ce que ça vous intéresse? Et donc, on prend les coordonnées et on essaie d'accompagner les gens lors de leur démarche. Pas sur cet appartement-là, évidemment, parce que ils l'ont pas eu, mais sur les appartements qu'ils ont eu par ailleurs. Et voilà, et on s'est aperçu qu'il y avait une vraie appétence, que les gens étaient prêts à le faire. Ça validait le fait qu'on puisse faire la démarche pour eux, qu'ils étaient prêts, qu'ils comprenaient que même si c'était gratuit, il n'y avait pas de loup, et ils étaient contents qu'on le fasse pour eux. Donc voilà, ça a été un premier point important. Et ensuite, le deuxième milestone, c'était de valider des...
Attends, excuse-moi, juste si je reviens, tu étais en train de faire la visite de l'appart et tu fais, bon, d'ailleurs, donc voici la chambre, voici le salon. Tu leur disais pas que c'était une fausse visite, évidemment.
Non, évidemment.
Et tu leur dis, d'ailleurs, dans le salon, là, vous allez voir, il y a un ami à moi qui monte une startup, il a un truc à vous proposer.
Exactement. Alors, c'était un peu weird, mais ça passait quand même. Voilà, faut pas avoir peur non plus de faire des choses un peu spé. Ils comprenaient, et puis en plus, ils voulaient l'appart, donc ils étaient prêts à nous faire plaisir.
Vous pitchiez la solution, vous montriez le site et
exactement. Il n'y avait pas de site à l'époque. À l'époque, on était 2 et 10 slides. Hein, c'était juste tout ce qu'on était. Donc, il n'y avait rien. Donc, on dit, on va le faire pour vous. Et voilà, on prenait leurs coordonnées. On les contactait un peu après. Et on a fait les contrats de quelques personnes comme ça.
C'est ça, sans avoir aucune plateforme.
On n'avait aucun partenariat. On a tout fait à la main. On a appelé nous-mêmes les fournisseurs en mode 100% lean. Voilà, et ça, d'ailleurs, c'est un super learning parce qu'on continue à être aujourd'hui très, très lean dans la boîte. On fait beaucoup de tests et d'itérations. La plupart des tests échouent lamentablement, mais c'est pas grave parce que de temps en temps il y en a un qui marche bien et là par contre on peut construire quelque chose de très puissant dessus. Voilà, donc comme ça on valide l'appétence des clients et ensuite côté fournisseur, on continue à faire un peu de biz dev et tout. On leur dit maintenant vous êtes intéressé par le produit, si vous pouvez nous signer une lettre d'intention. Et donc on finit par le faire. Je me souviens, la première lettre d'intention, c'était directeur commercial de Bouygues. Donc j'avais envoyé des mails à des gens là-bas, fait des calls et j'avais eu par ricochet plusieurs mises en relation, dont une qui avait fini par aboutir à la bonne personne, donc Régis Van Bruxelles. Et voilà, et donc je me souviens du premier contrat parce que à l'époque, je devais aller en Pologne la semaine, donc je lui ai dit je viens signer la lettre d'intention avec vous. Enfin, c'est moi qui essaie de lui faire signer, hein. Mais je lui ai dit par contre, il faut impérativement que ça se fasse lundi matin à 7h30 ou à 8h. En fait, moi j'avais mon avion après, donc je pouvais pas revenir en semaine. Et donc c'était un peu dur de lui faire accepter, mais il a accepté. Et voilà, et donc on a signé la première lettre d'intention et les autres sont venus assez rapidement. Et voilà, donc on avait validé les deux.
La lettre d'intention, c'était que ce fournisseur était OK pour être sur votre plateforme et vous donner une commission de...
Exactement, voilà. Il n'y avait pas de contrat parce qu'en fait, on n'avait pas de forme sociale, on n'avait pas d'entreprise. Donc, c'était pour que les gens, qui nous montrent qu'ils étaient, ils étaient prêts à commit aussi un peu, à s'engager aussi un petit peu eux-mêmes, quoi. Et donc, une fois qu'on avait ces deux trucs-là, on s'est dit, OK, le projet a de valider à peu près tous les checks qu'on s'était donnés. Donc, on s'est dit, OK, on y va, on démissionne et on se lance. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est un peu lancé dans le vide. Et je pense que c'est important de savoir aussi que, en tout cas, nous, c'était le cas. Il n'y a pas de moment un peu eureka. On n'est pas 100% sûr que c'est bon, ça va être le nouveau Facebook, etc. On se dit que ça a l'air de cocher pas mal de cases. Mais on se dit, c'est bizarre que personne ne l'ait fait avant. Pourquoi ? Enfin, ça a l'air trop beau pour être vrai.
C'est une question que j'avais posée. Concurrence, zéro, pas à l'international.
Il y a 90% du marché, en fait, c'est les gens qui le font eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font leur démarche eux-mêmes. Donc, c'est avant tout énormément de substitution. Et sur le reste, il y a des gens qui ont essayé de faire des démarches comme nous. Enfin, en fait, on a identifié des micro-boîtes qui avaient essayé de faire comme nous, qui avaient soit fait faillite, soit ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, on voit, c'est des boîtes qui n'ont en fait pas la bonne approche, etc. Enfin, c'est pas parce que il y a une petite boîte sur le secteur ou sur l'idée que vous avez qu'il faut s'arrêter. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que l'équipe est bien ? C'est-à-dire, est-ce que en fait, on pense que les gens sont les bonnes personnes pour faire le projet ? La plupart du temps, c'est souvent non. Et c'est souvent la raison pour laquelle ça a échoué. C'est parce que c'était pas forcément la bonne équipe. Et voilà. Et par ailleurs, même si c'est la bonne équipe, si en fait la boîte est pas si grosse que ça, ça veut dire qu'en fait, il y a la place pour quelqu'un d'autre. Donc, faut pas trop se...
Oui, c'est pas parce qu'il y a une landing page quelque part que faut avoir peur, quoi.
Il y aura toujours une landing page quelque part. Il y aura toujours une boîte qui aura un sous-onglet pour dire qu'ils font un peu la même chose que vous. C'est pas grave. Faut pas se prendre la tête. Et si de toute façon vous mettez un mois à la découvrir, ça veut juste dire qu'en fait elle est tellement petite que c'est pas un problème non plus. Donc on se posait la question, c'est bizarre, il y a des gens qui ont l'air de faire un peu ce qu'on fait, mais voilà, c'était des manières un peu différentes de le faire. Donc on se lance, on démissionne on n'avait pas le bossé les week-ends avant, donc on se lance avec une organisation un peu millimétrée et en un mois on a créé la boîte et on a commencé à faire nos premiers clients.
C'est quoi une organisation millimétrée ?
On savait exactement ce qu'on devait faire d'un point de vue légal, des créations du site, setup des opérations, signer les contrats pour de bon avec les fournisseurs, commencer à recruter les premières personnes dans l'équipe. Donc on a eu une organisation extrêmement intense et on était des gros bosseurs, donc on s'est vraiment mis à fond. Et ce qu'on voulait surtout pas, c'est passer un an à développer un produit et ensuite le présenter au public au bout d'un an. On avait lu The Lean Startup, qui est un bouquin que je conseille, mais si on ne peut pas être entrepreneur, je pense. En tout cas, il faut l'avoir lu quand on est entrepreneur. C'est un énorme... ça permet d'itérer beaucoup plus rapidement. Et donc, on s'imaginait pas passer un an à ne pas avoir de clients. Donc, on s'est débrouillé pour qu'entre le moment où on a démissionné et le moment où on a lancé, il se passe moins d'un mois. Et ça nous a permis de sauvegarder beaucoup de temps et d'avoir un petit peu cette vélocité et de continuer à itérer pour pouvoir justement croître rapidement. Donc,
et là, vous étiez toujours dans la logique où vous n'aviez pas de produit, pas d'automatisation.
Là, à ce stade, on n'avait pas encore d'automatisation. Par contre, on avait un produit déjà. C'est-à-dire que on commençait à pouvoir... la provision de valeur commençait à être remplie pour les gens qui déménageaient. On n'avait pas encore commencé à développer un produit complexe, automatisé derrière.
Quand tu dis vous aviez un produit, c'était quoi ?
On avait un site, on avait des formulaires, etc. Donc les gens pouvaient commencer à le faire. Ils le faisaient soit par téléphone, soit sur le web. Et voilà. Et derrière, l'automatisation, c'était nous qui faisions tout. On faisait nous-mêmes, les fondateurs et la première équipe au début, toutes les démarches intégralement. Et on l'a fait pendant pas mal de temps, justement pour pouvoir scaler rapidement, quoi. Mais on voulait d'abord avoir des clients pour être sûr qu'on allait développer les bonnes automatisations et pas faire un truc pour s'apercevoir 6 mois plus tard que ça ne servait à rien. Okay.
Donc ça, c'est, ça, en effet, c'est assez clé hein, dans les logiques. Ça, c'est un peu ce que parmi les MVP, les Minimum Viable Product, dont on parle dans The Lean Startup, y en a un qu'on appelle le MVP de conciergerie, c'est-à-dire que oui, d'un point de vue externe, c'est une belle boîte qui marche tout seul, mais en fait, c'est toi à la main qui va assurer ton... C'est toi le produit, en fait.
Exactement, exactement. Mais, non, mais c'est bien, hein, ça permet de bien comprendre qui sont les clients, de leur parler, ça leur permet de comprendre leurs attentes, etc. Donc, je pense que c'est une super étape et souvent, les gens... Moi, je vois souvent des équipes fondatrices qui ont un petit... Enfin, en fait, c'est pas ce qu'on préfère faire. Parce que quand on lance, on a envie de dire, voilà, j'ai lancé mon produit, de le dire à la terre entière. On s'imagine que, ouais, on va avoir du bouche à oreille, que le produit va se... Enfin, on va avoir la viralité, etc. Bon, ça marche quasiment jamais comme ça. Donc, en fait, faut s'obliger à lancer un produit dont on a un petit peu honte. Pas parce qu'on va en avoir honte, mais parce qu'en fait, on voudrait faire 200, beaucoup de features, mais qu'on va juste, on n'a pas le temps de les faire. Donc, faut s'obliger à lancer très rapidement, quel que soit le business, pour commencer à itérer rapidement. Parce que c'est à partir du moment où on a des clients qu'on commence à voir que, en fait, pas mal de questions qu'on se posait étaient totalement pas pertinentes et inversement.
Ouais. Et là, les clients que tu chopais, c'était encore par des fausses visites d'appart ou vous aviez commencé à trouver d'autres canaux d'acquisition un peu plus
pérennes? Non, alors ça on a les fausses visites d'appart, on l'a fait qu'une seule fois, on l'a jamais refait après. Non, là, on a commencé justement à itérer aussi sur le marketing et c'est là où on s'est aperçu que c'est très différent de vendre un service alors parce que on est physiquement présent à côté du client versus commencer à vendre un service via une vague pub sur Facebook, un email envoyé, etc. Donc en fait, on a mis 2-3 mois. C'est un peu à traverser du désert, on s'était lancé, on était ok, c'est bon, on se lance, on était à fond. Et bon,
ah oui, parce que tu me l'as vendu en mode on s'est lancé un mois après, tout roulait, on recrutait.
Alors, non, on a commencé à recruter, on avait donc deux stagiaires qui nous ont rejoints au tout début de l'aventure. Mais pendant les 2-3 prochains mois, 2-3 mois suivants, ça a été un peu la traversée du désert. On avait 1-2 clients par semaine, c'était souvent nos proches en fait, enfin, hein, qui utilisaient le service. On a eu des semaines au bout de, je crois, 2 mois et demi, 0 client. Ouais, on se dit, ouf, qu'est-ce qu'on a fait à la fin, voilà. Donc, après, on s'est jamais démotivé, mais on a testé énormément de manières de lancer le service. Enfin, on a fait des tests où on a créé un groupe Facebook sur la location d'appart où on avait invité nos potes. Enfin, aujourd'hui, je suis toujours administrateur de ce groupe. Enfin, il sert à rien, mais on a plus de 60 000 membres pour trouver un appart à Paris. On a testé de faire des flyers à la sortie des écoles. On a essayé de faire des partants avec des agences immobilières qui à l'époque n'ont pas marché. On a testé des pubs sur Facebook, des envois de mails. On a testé de faire du bouche à oreille, on a testé de poster sur des groupes d'annonces Facebook pour essayer de trouver les gens qui cherchaient des apparts. On a fait un partenariat avec à l'époque je crois Avendre à Louer. On a fait un nombre de tests effroyables qui ont tous lamentablement échoué, ce qui était un peu dur jusqu'au moment où on en a un qui a commencé à marcher et là ça a été le début du décollage.
Mais savoir.
Alors, c'était en fait tout simplement c'était du marketing digital. On a réussi à targeter mieux des clients qui étaient en train de déménager et on a trouvé une bonne manière de leur parler. Et donc, il nous a fallu itérer pas mal de fois. C'est un peu sur la landing page, sur le discours, sur qui targeter quand. En quelques semaines, ça a commencé à décoller et c'est là où on s'est dit, ok, maintenant on arrête les tests et on scale ce truc-là.
C'est un peu la question que j'allais te poser parce que le qui, à la limite, bon, tu peux commencer à le définir, mais c'est vrai que toi, tout, quand t'es sur l'usage, déménagement, c'est le quand, le problème.
Exactement.
Tout le monde peut potentiellement être dans la cible, mais il faut que tu lui parles au bon moment.
C'est ça
qui
est très dur.
C'est quoi le hook, l'accroche que t'as trouvé pour les cibler?
Alors, il y a énormément d'accroches qu'on a testées, et il y a plein d'accroches qui semblent être pertinentes. On dit oui, on fait des pubs sur, je sais pas moi, les trucs d'annonces, etc. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est le timing. Parce qu'en fait, il faut contacter la personne dans la semaine où elle déménage, ni avant ni après. Parce qu'en fait, avant, elle ne veut pas le faire, elle n'a pas encore trouvé son appart ou elle s'en occupe pas. Après, elle l'aura déjà fait. Donc, ce qui est compliqué, c'est que effectivement, on est un produit hyper démocratique qui s'adresse à tout le monde. Et aujourd'hui, on a eu, des grands-mères de 95 ans comme clients, comme plein de jeunes de 18 ans, ou d'ailleurs, c'est souvent leurs parents qui faisaient les démarches pour eux, ce dont on s'est aperçu un peu plus tard. Mais c'est une notion de timing. Et donc aujourd'hui, on a plein de méthodes différentes très liées à la data qui nous permettent de targeter beaucoup mieux ces clients-là. À l'époque, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à essayer de faire des pubs à des endroits où on pensait que les gens seraient en train de déménager. On a essayé de faire des pubs avec des notaires, par exemple, sur AdWords. On a essayé de faire des pubs sur des mots-clés comme déménagement, etc. Et on savait que si la personne tapait tel mot-clé, c'est qu'en moyenne, une ou deux semaines plus tard, elle allait déménager. Donc, vous pouvez renvoyer un mail, ce genre de choses. Donc, voilà. On a fait plein de tests et pour à la fois trouver pas tellement les bonnes cibles, mais surtout la manière de targeter d'un point de vue temporel les personnes. Et ça, c'était très dur.
Ok. Et donc là, tu étais sur de l'acquisition payante et à un moment, tu es sur le test numéro 127. Je caricature.
Pas du tout.
Et là, il y a des clients qui commencent à arriver.
Exactement. Alors, c'était sur AdWords, donc je sais pas si c'est vrai, mais à un moment, on commençait à avoir des clients. Puis la semaine suivante, on avait toujours autant de clics, mais plus aucun prospect. On pense qu'à ce moment-là, on a peut-être pas des concurrents, mais des gens dans l'espace qu'on commençait à se dire, OK, on va essayer de cliquer nous-mêmes sur les annonces pour qu'ils payent et qu'ils aient pas de résultats. Donc on a blacklisté quelques IP. On s'est aperçu que finalement, ça revenait. Voilà. Donc là, on a commencé à avoir nos premiers prospects. Et là, on s'est aperçu que ça commençait à transformer. Et on a fait une dizaine de clients. Et sur la base de ces 10 clients, enfin, je me rappelle, on a testé pendant une semaine entière. Le vendredi, on avait fini de tester. Le samedi, moi, j'ai analysé les résultats et j'en ai discuté avec Benoît, mon associé. Et on s'est dit, OK, cette site, on y va. On arrête tous les tests qu'on a fait et on met toute la boîte là-dessus. Enfin, toute la boîte à l'époque, c'était 4 personnes. Mais on se lance à fond et on n'était pas à 100% sûr que ça allait marcher, mais on s'est dit, ça paraît être une bonne opportunité, on y va et on s'est lancé à 100%
sur ce canal-là. Ok. Et donc là, les demandes rentrent et du coup, tu es un peu au four et au moulin parce que tu dois à la fois gérer... En fait, à quel moment tu sors un peu du MVP où tu dis à Benoît, bon, maintenant, ça gère de commencer à faire du dev et des...
Exactement.
des
automatisations. Là, à l'époque, notre produit, c'était des automatisations, des Google Sheets. Là, on n'avait pas de data. Enfin bref, tout se faisait sur Excel. Donc là, on se dit, OK, on scale. On passe une semaine à commencer à recruter des personnes pour le customer support. On passe une semaine à créer un CRM parce qu'à l'époque, c'était Google Sheets, notre CRM, et à améliorer un peu le produit, et après on se lance et on commence à scaler. Et donc on a passé une semaine entière où on a fait très peu de business parce qu'on voulait justement prendre un peu de recul et on a commencé à dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre des gros volumes. Donc voilà, je pense qu'il faut analyser, il faut tester, prendre un peu de recul. Souvent, la plupart des tests vont échouer, donc parfois il faut décider soit de persister, soit au contraire de passer au prochain test. Ça, c'est pas facile à savoir d'ailleurs. Soit quand on voit que ça, il y a une pépite, là il faut y aller, il faut foncer. Et faut mettre toute la boîte sur le scaling de ce truc-là.
Et là, d'un point de vue produit ou de l'offre, vous aviez quelques lettres d'intention de fournisseurs.
Alors non, à ce stade-là, maintenant, on a démissionné un mois plus tard, on s'est lancé réellement. Là, par contre, on avait signé des vrais contrats auprès des fournisseurs, on avait accès au back-office, on avait accès à 6000 API à l'époque. Donc là, on faisait du vrai business, on faisait déjà un peu de revenus, mais c'était très faible parce qu'il y avait très peu de clients. Mais là, c'était plus un MVP, enfin, on avait un vrai produit.
Et vous aviez une base de fournisseurs suffisant pour adresser les...
Pas du tout.
Voilà, c'est ça où je voulais...
Non, on n'a pas attendu... Enfin, on s'est dit, on va commencer à faire les tests, etc. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les premiers tests ont échoué, mais bon, c'est pas très grave. On avait au début peu de fournisseurs, mais en quelques mois, on est passé de, un fournisseur sur l'énergie, un fournisseur sur la box, un fournisseur sur l'assurance, à trois fournisseurs sur la box, trois fournisseurs sur l'énergie et deux sur l'assurance. Voilà. Et
vous étiez juste focus sur ces trois service au début.
Exactement. Voilà. On savait aussi. Enfin, après, on a toujours la vision finale, mais faut pas espérer délivrer la vision finale day one. C'est pas possible en fait. Il faut se focaliser sur quel est le minimum nécessaire pour créer de la vraie valeur pour le client, pour qu'il soit content du service. Et à partir de là, faut y aller. Et d'ailleurs, au tout début, les tout premiers clients seront pas forcément très contents du service. Ils vont essuyer les plâtres et faut pas leur dire, mais voilà. Après, il faut s'adapter très rapidement pour que ça cesse très rapidement et que la satisfaction client soit bonne assez rapidement. Les 10 premiers clients, on peut avoir un peu des problèmes. Par contre, après, il faut les régler rapidement et s'assurer qu'ils aient une bonne expérience.
C'est vachement intéressant parce que dans toutes tes démarches, que ce soit sur la partie produit, sur la partie marketing ou même sur ta partie équipe, j'ai l'impression qu'il y a, ou même sur la décision de on se lance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette alternance entre une phase de récolte d'informations ou de tests assez intense et ensuite une phase de décision et de structuration un petit peu de ok, comment on passe à l'étape d'après avant de se lancer dans l'étape d'après.
Ouais, exactement. En fait, c'est deux états d'esprit totalement différents. Enfin, quand on teste, on y va, on fait des raccourcis, on sait que la plupart vont échouer. Donc, le but, c'est d'être rapide, de faire des, enfin, de bien exécuter quand même, mais d'être rapide. Et c'est pas grave si on se brûle un peu les ailes, etc. En revanche, une fois qu'on a décidé de miser, on pense que c'est un bon produit, que c'est une manière d'augmenter telle ou telle métrique, d'avoir plus de clients, etc. Enfin, à partir du moment où le test nous dit qu'on est sur quelque chose de bien, là on arrête tout et on commence à faire quelque chose qui est scalable, qui va permettre de croître vite et qui est durable dans le temps. Donc c'est plus du tout les mêmes méthodes, c'est totalement différent, mais il faut être capable d'alterner entre les deux. Et une fois qu'on a scalé un premier produit, on a scalé une première feature, etc., pareil, bah, il faut se remettre à tester tout en continuant à scaler en même temps le canal historique. Et pour retrouver un peu une pépite et passer à l'étape suivante. Donc c'est important de continuer ensuite. Pendant les 2-3 premiers mois, il faut se focaliser sur le scaling, mais après, il faut recommencer à tester un peu pour trouver justement ce qui va être le relais pour la suite.
Ok, hyper intéressant. Et donc là, du coup, tu commences à avoir à la fois un canal d'acquisition qui commence à tourner, un produit qui est de plus en plus... ou en tout cas des process de plus en plus structurés et un produit qui va commencer doucement à s'automatiser, c'est ça ?
Exactement.
C'est un peu l'étape en général, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais de ce qu'on appelle la vallée de la mort, qui est le « ok, j'ai réussi à amorcer un petit peu la pompe, à avoir mes premiers early adopters, comme on dit. Maintenant, comment je passe à la phase où... ça grossit vraiment, quoi. Et où j'ai...
Alors, nous, on
quand
était
tu passes de deux fondateurs et de stagiaires à une boîte.
Nous, ça s'est fait assez rapidement, au sens où une fois qu'on a fait on a commencé à scaler ça, on est passé assez rapidement de deux fondateurs à, je sais pas, une trentaine de personnes dans la boîte, enfin, en l'espace de 2 mois, tu vois. Donc, on a été focalisé sur le scaling et on a bourriné et on s'est dit.
Alors, comment tu recrutes tout ce monde ?
Alors, ça, c'est effectivement compliqué. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que le recrutement, c'est à la fois, enfin, c'est le plus dur, c'est au début, mais c'est aussi le plus important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, personne te connaît, t'as pas d'argent à mettre sur des job boards, et ta boîte, elle est inconnue et donc assez incertaine. Donc, c'est pas un projet qui est hyper attrayant. Alors qu'en fait, c'est le plus important d'avoir les bonnes personnes parce que 50% au moins du succès d'une boîte, à la fin, c'est les personnes qu'on recrute. C'est d'autant plus vrai que la boîte devient de plus en plus grosse. C'est hyper important d'avoir les bonnes personnes parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va définir sa culture. La culture, elle est définie un peu par la manière dont on bosse les fondateurs au début, mais ensuite, très rapidement, elle va être définie par les personnes qui sont recrutées et la manière dont elles vont travailler ensemble. Et donc, s'assurer d'avoir des personnes excellentes qui vont elles-mêmes pouvoir recruter des personnes excellentes par la suite, c'est hyper important parce que si on recrute des personnes moyennes, elles-mêmes ne recruteront pas des personnes très bonnes par la suite. Donc c'est très dur de recruter bien au début parce qu'en fait personne te connaît, ton projet n'est pas encore très excitant, mais c'est aussi le moment où c'est probablement un des moments les plus importants. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidemment utilisé nos réseaux perso, on a dit ok, venez ici, etc. Donc on a quelques amis qui nous ont rejoints et on a passé aussi beaucoup de temps à recruter. Ça occupait jusqu'à 50%, enfin on pouvait faire 10-15 entretiens par jour, le week-end aussi parfois, pour recruter l'équipe et essayer de scaler assez rapidement. Donc c'est dur parce qu'en fait il faut avoir du volume, il faut être sélectif, donc on avait aussi, comme on ne pouvait pas se payer un cabinet de recherche, on blastait pas mal sur LinkedIn pour essayer d'avoir des gens avec des bonnes compétences, etc. Et on a fini par recruter pas mal de gens. Je crois que j'ai recruté mon CMO en téléphonant à un ami qui était au Gabon et qui l'a réveillé de sa sieste. Et je lui ai dit, bah ok, pourquoi je peux lui parler. Donc il l'a réveillé de sa sieste et c'est comme ça qu'on a initié la conversation. Voilà, faut y aller avec les dents, faut essayer d'attirer les bons talents. Et ça prend beaucoup de temps, mais c'est hyper important.
Et comment tu avais les fonds pour recruter
ton téléphone ? Alors ça c'était très difficile aussi parce qu'en fait on s'est bootstrappé pendant les 2 premières années. On avait mis 25 000 euros qui étaient toutes nos économies à tous les deux, donc mon associé et moi dans la boîte. On avait réussi à obtenir un prêt de à l'époque, je sais pas, 15 ou 20 000 euros. Donc ça aurait ça nos fonds à l'époque.
Prêt de
la banque.
De la banque.
Ouais, exactement. Le banquier d'ailleurs nous avait été hyper sympa, nous avait fait un prêt, ce qui est assez rare au début d'une boîte, mais il y croyait en nous et on l'a bien rendu par la suite. mais en tout cas ouais, c'était hyper sympa de sa part. Donc voilà, donc, et en plus on avait eu des problèmes parce qu'on avait été attaqué par bref des avocats sur des histoires de branding, parce que enfin soi-disant que un antivirus avait une marque similaire à la nôtre, bref on a gagné hein, finalement, mais on a dû dépenser 5 000 euros, ce qui était un cinquième de notre cash, pour défendre une marque au tout début de notre création, à cause d'un grand groupe qui nous attaquait là-dessus. C'était assez frustrant. voilà, mais donc donc on, voilà, et donc on, le problème aussi c'est que notre business model, c'est nous qui avançons, bah, on paye comme c'est normal hein, les salaires, le marketing, etc., mais on est payé généralement 2 mois après. Et donc, bah en fait, la seule manière de financer tout ça, ça a été d'être extrêmement lean en termes de coûts. C'est-à-dire que, bah en fait, au début, on avait très peu de tools, on utilisait tout ce qui était gratuit, on utilisait des adresses Gmail gratuites et pas G Suite parce qu'on n'avait pas l'argent pour le payer. On modélisait notre cash à la journée près, parce qu'on commençait à avoir 30 personnes. En fait, on avait pris de la facturage, etc., mais on était à peut-être 500 ou 1000 euros du dépôt de bilan au pire moment du mois, à chaque fois. Et c'était mesuré de manière millimétrée. C'est-à-dire qu'on ralentissait la croissance parfois parce qu'on savait qu'on n'arriverait pas à avoir le BFR pour le faire. Et on la réaccélérait dès qu'on avait reçu l'argent, etc. Enfin, c'était une gestion assez cauchemardesque du cash. Mais ça nous a permis de tenir 2 ans en bootstrapping. Et d'apprendre aussi qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Et ça, je pense, pour notre culture, ça a été quelque chose d'important, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de tools hyper chers, etc., qui ont juste 10% de features en plus que les tools très chers, et en fait, ça sert à rien, et on peut faire plein de choses en étant assez inventif et en ayant un peu de ressources.
Cette capacité d'appréhension des enjeux financiers et des fichiers Excel, vous l'aviez du conseil ou vous l'aviez de par nécessité?
Non. Là, on l'avait. Ça c'est clairement quelque chose qu'on a repris du conseil et moi aussi un peu de la banque d'affaires. Oui. Enfin, ça, on maîtrisait très très bien. On a fait des choses assez compliquées, parfois peut-être un peu trop compliquées pour ce que ça demandait. mais oui, ça, on l'a pas appris sur le tas. On le savait déjà le faire. Hein. Par contre, on a pris tout le reste sur le tas. Hein. Recruter, faire du marketing, faire des opérations, développer un produit, faire des interviews utilisateurs, développer une stack tech. Tout ça, on y connaissait littéralement zéro et on a tout appris sur le tas.
Et si je reviens du coup avec cet éclairage sur la question du recrutement, comment tu recrutes des gens sur des postes dont tu ne connais pas, ouais, quelles sont les compétences dont il y a besoin?
Alors ça, on le fait maintenant, mais en fait au début ça on l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'en fait on a appris tout seul à faire. Enfin, mon associé était notre CTO, c'est lui qui développait, donc il savait très bien ce qu'il cherchait dans nos premiers devs. Pareil, le produit au début c'est moi qui le faisais, donc je savais très bien ce qu'on cherchait au produit. Le AdWords, Facebook Ads, en fait c'est moi qui le faisais au début, donc je savais exactement ce que je voulais. C'est mon associé qui faisait le customer support. Donc il savait exactement ce qu'il voulait parmi nos opérateurs, etc. Donc en fait, pendant les 2-3 premières années, il n'y a pas un seul job qu'on ait recruté qu'on n'ait pas fait nous-mêmes auparavant. Donc en fait, on savait exactement ce qu'on voulait et donc il n'y a pas trop ce problème-là. Mais effectivement, c'est un enjeu aussi au bout d'un certain temps d'arriver à scaler. Pour scaler, il y a un moment où on ne peut plus faire tous les jobs, sinon c'est beaucoup trop limitant pour la boîte. Et le rôle des fondateurs n'est plus du tout dans l'exécution, mais au contraire dans recruter les bonnes personnes pour que justement on puisse collectivement avancer beaucoup plus vite. Et donc c'est une transition qu'on a faite aussi. Hein. Et ça, c'est pas facile. Mais donc la clé là-dedans, en fait, c'est de parler à 4, 5, 6 personnes, enfin essayer d'identifier, 5, 6 personnes qui sont très bonnes dans le job qu'on veut recruter, juste pour leur parler, pas pour les recruter, mais bon, parfois quand ça se passe bien, on peut les recruter. mais avant tout, pour leur parler, pour comprendre le job, comprendre les questions qu'ils posent en entretien, comprendre quel type de profil peuvent convenir, etc. Encore une fois, il faut juste poser des questions, il faut demander des conseils, et la plupart des gens sont super sympas et vont vous répondre. Et donc, faut pas hésiter. Vous voulez recruter, un excellent gros hacker, envoyer, pinguer, une dizaine de gros hackers pour comprendre qu'est-ce que c'est que leur job, s'ils doivent en recruter un, comment ils le recrutent. Essayez de parler à quelqu'un d'un peu senior pour qu'il vous dise, quand j'ai recrute, moi je pose ça comme question, je regarde ça, je veux tel profil, etc. Et apprenez, c'est aussi simple que ça.
Mais sur la question de, tu recrutes des profils sur des tâches que tu savais déjà faire, je le vois bien, nous c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup, et puis c'est vrai que de toute façon les fondateurs ou les entrepreneurs, l'équipe cœur au début d'un projet, c'est un peu les méga couteaux suisses, quoi. T'es obligé de faire tout seul, donc t'apprends à faire tout. D'un autre côté, quand tu commences à recruter, et surtout quand tu commences à recruter jusqu'à 30 personnes assez rapidement, il y a quand même l'enjeu où t'as besoin de personnes qui sont capables de structurer peut-être les démarches et d'avoir des postes un peu plus chief quelque chose ou head of quelque chose.
Tout
et là, la capacité de structuration de la démarche de ce que toi, tu as fait au couteau suisse dans ton coin, c'est peut-être deux niveaux, non, différents.
Alors, c'est absolument, ça c'est vrai. Hein, c'est entre un fondateur qui a fait une tambouille dans son coin et qui dit c'est cool, j'arrive à le faire, etc. Et quelqu'un qui maîtrise vraiment bien son sujet, c'est pas la même chose. La personne qui maîtrise vraiment bien son sujet, elle est 10 fois meilleure que le fondateur qui l'a appris sur le tas et bon, qui, un peu par la force des choses, a dû le faire. Quoi. Mais donc, encore une fois, effectivement, ces capacités, enfin, ce qu'on recherche nous quand on recrute quelqu'un, c'est à la fois un bon manager qui est capable de manager une équipe, parce que à terme il va forcément avoir une équipe, quelqu'un qui est capable de recruter des bonnes personnes aussi. Donc ça, faut faire très attention. Est-ce que la personne a les aptitudes, le charisme pour arriver à recruter d'autres personnes de qualité pour nous rejoindre. Et ensuite sur la structuration. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait des cas. On propose des problèmes très concrets et on essaie de voir comment les gens réfléchissent, comment ils vont structurer un petit peu l'approche qu'on a eue. Et donc, on peut leur poser en live des questions. Voilà. Et après, en plus, encore une fois, on demande à des personnes qui s'y connaissent très bien comment est-ce que vous recrutez, qu'est-ce que vous recherchez comme qualité, comment vous les testez. Et on essaie d'appliquer ça lors des entretiens. Et ça permet en fait de bénéficier de la sagesse de gens qui connaissent très bien le job, alors que nous, très peu, et d'arriver à recruter les bonnes personnes.
Ok, hyper intéressant.
Et on se trompe au début. Hein. Enfin, trop, hein, mais ça arrive. Faut être prêt là-dessus et il faut le gérer. C'est rare d'avoir un track record parfait sur le recrutement.
Et du coup, c'est intéressant parce que, comme tu dis, vous avez bootstrappé pendant 2 ans votre approche. Donc déjà, bravo, parce que ça veut dire que vous étiez sur un business model déjà assez solide, parce que même en recrutant beaucoup, vous étiez encore quand même capable d'absorber. Vous le saviez a priori, ça ? Dès ton étude, des fournisseurs,
Oui, c'est une bonne question. On avait fait des études, des Excel, etc. Et souvent, effectivement, notamment les consultants comme nous, on a passé peut-être un peu trop de temps sur nos slides. Donc, si je peux donner un conseil aussi, c'est bon, c'est gentil les slides. Les slides, c'est pas mal. Ça permet de montrer aussi, le communiquer à des futurs associés ou à des futurs partenaires. Ça peut être un moyen de montrer le sérieux et l'investissement et de communiquer aussi le sérieux du projet. Après, au-delà de ça, c'est bien de modéliser, faire des Excel, etc. Après, on s'aperçoit en fait que entre les hypothèses qu'on avait prises et la réalité, il y a des énormes écarts. Alors oui, il y a des trucs sur lesquels on était bien tombés, des trucs sur lesquels c'est totalement faux.
C'était des écarts sur quoi, typiquement ?
Je sais pas, ça peut être 1 à 10. Enfin, parfois, c'est vraiment gros. Parfois, c'est 1 à 2.
Et les hypothèses, c'était quoi ? C'était le nombre de clients sur lesquels vous vous plantiez, le coût d'acquisition ?
Le coût d'acquisition, la transfo, le temps qu'il fallait pour aider un client, les commissions qu'on pouvait toucher. Enfin, franchement, c'était... on s'est trompé pas mal sur le business plan. Après, l'avantage, c'est que souvent, en fait, quand on fait une multitude d'erreurs, elles se compensent. pas tout le temps, hein, mais voilà. Mais donc, oui.
Sauf quand tu surévalues tout.
Voilà. Donc, faut essayer d'être assez rationnel là-dessus. Mais souvent, c'est des trucs qui sont difficiles à savoir. Enfin, quand on demande le coût d'acquisition de quelque chose à quelqu'un, c'est rarement une donnée qu'il va accepter de donner. Donc, voilà, faut se lancer, et c'est là aussi il y a l'incertitude. Hein. Enfin, on a beau penser avoir une super idée, etc. Enfin, il y a un facteur chance, hein. Il faut jamais l'oublier. Il y a plein de gens qui la boîte décolle pas, et c'est pas parce qu'ils étaient pas bons, c'est juste qu'ils ont pas eu de chance, et faut avoir en tête qu'il y a un facteur chance et faut pas l'oublier. Donc le plus simple, c'est juste de se lancer, d'avoir ses premiers clients pour justement pas prendre un an à se rendre compte qu'en fait le business model qu'on imaginait, en fait, t'es pas du tout bon.
Et du coup, si tu tiens... alors déjà, c'est quoi l'effet notable, on va dire, dans ces 2 premières années de bootstrapping ? Vous avez continué à grossir linéairement, exponentiellement
Ouais, ça continue à être exponentiel. On était quasiment, je pense, sous 80 avant de faire notre première levée de fonds. Alors, ça a été un peu dur quand même, parce que il fallait tout le temps... être un peu en pompier sur plein de sujets, anticiper des manques de cash, trouver des moyens d'en faire un peu plus. Nous-mêmes, les fondateurs, on a remis autant qu'on pouvait un peu dans le compte courant associé parfois, parce qu'en fait, là, il n'y avait plus d'argent dans la boîte, donc on n'allait pas la laisser tomber alors qu'il y avait un super potentiel.
Vous vous rémunériez
Non, on ne se rémunérait pas à l'époque. On montait des meubles Ikea le week-end parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer quelqu'un pour le faire et qu'il fallait monter des bureaux parce que les gens arrivaient le lundi et qu'on ne voulait pas qu'ils perdent du temps à monter des meubles et qu'il fallait que ce soit nous qui le fassions parce qu'il fallait qu'ils produisent. Voilà, donc l'effet notable, c'est qu'on a quand même réussi à scaler une boîte jusqu'à 70 ou 80 personnes, qu'on faisait du revenu, qu'on a réussi à étoffer notre nombre de partenaires, à développer un produit, un beau produit, d'avoir un NPS qui était plutôt sympa à l'époque. On a été sélectionné au Y Combinator, on a fini par décliner parce qu'on préférait se concentrer sur notre croissance post-levée de fonds, justement, là-dessus. Et voilà, on a réussi à faire, je crois, quasiment 50 000 clients sur les deux premières années. J'ai plus les chiffres en tête exactement. Voilà, mais on a eu une belle traction et on a continué à scaler, puis à retester, à rescaler les nouvelles choses et à développer un panel, à élargir notre panel d'offres, avoir une satisfaction client de plus en plus forte, avoir un produit de plus en plus sophistiqué. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a convaincu aussi des fonds comme Partech et Idinvest et Kima de rejoindre l'aventure. Et c'est ça qui nous a permis de lever à l'époque.
Et comment tu passes un peu de cette décision de... T'as réussi à tenir une boîte quand même à s'enlever pendant 2 ans, à faire passer 50 000 clients pendant ton service. Alors, c'est un service particulier parce que du coup, on peut pas dire que t'avais 50 000 clients en fixe, hein, puisque c'était que sur l'usage du coup déménagement à l'époque, n'est-ce pas?
Absolument.
Ouais. Donc, il passe par ton service, mais disons que la rétention, elle est pour la prochaine fois où ils changeront d'appart. Comment tu te dis, c'est cool de bootstrapper, mais là je vais aller voir des fonds.
Oui, donc c'est effectivement une bonne question. En gros, il y avait plusieurs éléments clés. On voulait investir beaucoup plus justement dans le produit, pouvoir automatiser plus, avoir un produit avec des en front qui était plus intéressant. Et notre vision, ça a toujours été d'utiliser le déménagement un petit peu comme un cheval de Troie, mais pour pouvoir aller gérer tous les contrats de tout le monde, à la fois en France et à l'international. Donc ça impliquait d'investir beaucoup plus massivement dans le produit, ce qui n'était pas possible en continuant de bootstrapper parce qu'on n'avait pas les moyens de financer suffisamment d'équipes dev pour développer ce qu'on voulait. Et que par ailleurs, voilà, on voulait aussi développer international. On voulait pas rester franco-français. Et ça faisait déjà 2 ans qu'on s'était lancé. On s'est dit que c'était le moment. Donc, on s'est dit qu'à ce moment-là, ça avait vraiment du sens de lever des fonds parce que ça me permettrait de nous accélérer beaucoup, d'avoir le matelas cash nécessaire, un, pour arrêter de bricoler comme on le faisait parce que c'était aussi très compliqué de faire parfois certaines choses qu'on faisait, et par ailleurs pour pouvoir scaler plus rapidement et aller à l'international et avoir un produit qui passait à l'étape suivante. Donc c'est pour ça qu'on a levé, et on aurait pu ne pas lever, hein, la boîte aurait fait survécu, mais je pense qu'aujourd'hui notre croissance aurait été plus faible, tu vois, enfin, on n'aurait pas fait le x10 qu'on a fait en l'espace de 3 ans sans cette levée.
Ouais, bien sûr, x10, bravo. Il y a peut-être 2 points sur lesquels j'aimerais revenir avec toi. Le premier, c'est que tu nous as parlé beaucoup de service client, NPS, satisfaction client, et je vais avoir un peu des questions sur voilà comment t'insuffles ça dans la boîte, et ça va être lié à mon deuxième sujet, parce que tu as parlé du fait que la culture de ta boîte se définit dès le début avec ton équipe fondatrice. Pour autant, du haut de tes 1 an et demi d'expérience professionnelle et 1 an et demi, un an de boîte à ton compte, tu devais pas avoir non plus une grande expérience de comment on met en place qu'est-ce que c'est qu'une culture d'entreprise, deux, comment on en met une en place, comment on la fonde, etc. Donc peut-être dans un ordre ou dans l'autre, parce que je pense que comme les deux sujets sont liés, je vais te laisser
On va commencer par parler de culture, justement. Donc effectivement, à l'époque, jusqu'à ce qu'on fasse la levée, en fait on n'avait pas du tout formalisé notre culture.
Donc vous étiez déjà 80.
Ouais, exactement.
Donc vous avez recruté.
Exactement. Donc on a été à fond en exécution, le recrutement, scaler l'équipe, etc. On avait 250 en jeu, donc on n'avait jamais formalisé la culture. Pour autant, c'est pas vrai de dire que on n'est pas déjà une culture forte. En fait, pour moi, la culture, c'est essentiellement ce qu'on recherche dans les gens qu'on veut embaucher, et les comportements qu'on veut promouvoir au sein de la boîte, la manière de travailler ensemble, la manière de rassembler des gens autour d'un objectif et d'y arriver. En fait, toute boîte, qu'elle le mette par écrit ou pas, va définir sa culture par la manière dont les fondateurs travaillent au début, et ensuite par les décisions qu'ils prennent, les comportements qui sont récompensés, ceux qui au contraire qu'on essaie de réduire au maximum, et par les gens qu'on va recruter. Donc même si la culture n'est pas formellement définie et communiquée, elle existait. On avait une culture forte, on avait des convictions assez fortes sur la manière dont on devait faire les choses pour être efficace, pour aller vite, les gens qu'on voulait recruter, pour arriver à construire une bonne équipe. équipe, travailler dans une bonne ambiance et arriver à délivrer de la valeur pour le client.
Comment tu l'avais comment tu le savais qu'il y avait cet alignement en fait sur ce que vous cherchiez? Vous l'aviez posé quelque part?
Non, justement, on l'avait pas posé, mais en fait, on a discuté un peu au début, on avait fait un pacte d'actionnaires, mon associé et moi, quand on se lance, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et voilà, donc on s'est un peu interrogé sur comment est-ce qu'on voulait travailler, quels étaient nos objectifs, quel est le mindset de l'entreprise. Donc en fait, on s'est toujours dit comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à faire réussir le projet, qu'est-ce qu'il faut pour faire réussir le projet. Et je pense que souvent, la culture, elle est définie par pas mal de boîtes un petit peu comme, soit on dit, tiens, Facebook, Google ont ça comme culture, serait cool qu'on l'ait aussi. Ce qui, je pense, est une très mauvaise manière de le faire. Ou alors des gens qui se décident, tiens, la culture, c'est quelque chose d'un peu extrême, donc on va définir des valeurs un peu extrêmes, tiens, faisons ça. Pour moi, la culture, elle doit découler de deux choses. Elle doit découler, de l'idée, du contexte et du projet de la boîte. C'est-à-dire qu'une boîte ou une autre vont pas avoir la même culture parce qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, en fait, pour la culture, c'est qui on veut recruter, comment on veut travailler afin d'accomplir ces objectifs-là. Et donc, c'est ça qui doit guider la culture. Et donc, ça, on était engagé à 100% dans la boîte, donc on faisait tout et on modifiait même nos propres comportements pour que la boîte réussisse. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à insuffler ça.
C'est-à-dire que vous modifiez vos propres comportements?
Je sais pas. J'ai pas d'exemple précis, mais si on pensait qu'il y avait un truc qu'on faisait naturellement, enfin par exemple on était consultant, donc à l'époque on faisait plein de slides, on faisait des Excel hyper rigoureux, on s'est dit ok, on arrête les slides, on exécute, ce genre de choses. Si on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui était contraire à la boîte, contraire aux intérêts de la boîte, on essayait de changer le comportement. Après, voilà. Donc, la culture, c'est qui on veut recruter et comment on veut travailler. Et la manière de décider ça, ça doit être décidé en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut mener la boîte, quels sont les objectifs qu'on veut faire. Et après, il faut aussi être un petit peu réaliste. Il faut aussi prendre en compte le fait que on est aussi humain et donc on peut essayer de changer des comportements, mais pas tous. Donc, il faut que ça soit aussi un peu... ça va se créer aussi un peu sur la base de la mentalité.
Inhérent à...
Ouais, des fondateurs au début et de l'équipe qui va arriver. Donc, voilà. Donc, c'est un peu un mélange entre les deux, entre qui on est au début et qu'est-ce qu'on veut être pour arriver à accomplir nos objectifs. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a levé des fonds, on s'est dit, OK, bon, là, on est un peu nombreux. Il s'agirait de commencer à communiquer formellement notre culture. Donc, voilà, on a fait un peu de brainstorming. On a fait quelque chose un petit peu de où on s'est rassemblé et on a justement essayé de faire émerger qui on était et on a aussi essayé de faire émerger quelques valeurs qui pour nous nous semblaient importantes et on pensait qu'on n'était pas suffisamment. Et par exemple le service client, on était une au sens où au début quand on est tout petit c'est hyper sain d'avoir un excellent service client. En fait tu donnes tout pour les utilisateurs, tu vas chez eux si nécessaire, etc. Dès qu'on commence à scaler, c'est beaucoup plus compliqué de maintenir.
Déjà aller chez des clients.
Oui, on est déjà allé chez les clients. Ouais, on a rapporté des box, etc. Ouais, au début, faut reculer devant rien, faut avoir peur de rien, faut y aller. Enfin, bon, parfois ça sert à rien, hein, mais faut pas ne pas faire des choses parce qu'on pense que c'est pas fait ou c'est peu courant. Enfin, si on pense qu'il y a un intérêt, faut y aller. Et donc voilà. Et donc, le service client au début, il était excellent. Quand on a commencé à scaler, il était un peu plus compliqué. Et voilà, donc on s'est dit stop, on veut revenir sur les fondamentaux. Donc on a retravaillé violemment tous nos process opérationnels parce qu'on avait réinscrit cette valeur un petit peu au cœur de nos valeurs. Donc voilà. Et après, la culture, elle est définie, mais elle peut changer une fois tous les ans, une fois tous les deux ans, parce que c'est pas la même chose d'avoir la culture d'une boîte de moins de 50 personnes, de 100 personnes, de 200 personnes, de 800 personnes comme nous aujourd'hui. C'est forcément plus les mêmes. Et c'est pas grave. Il faut arriver à faire évoluer la boîte et faire évoluer sa culture pour justement s'adapter aux manières de travailler qui sont les plus efficaces pour arriver à. Et aux gens qu'on veut recruter pour arriver à les faire travailler ensemble afin qu'on aille le plus vite possible à notre objectif.
C'est assez intéressant les différents paliers que tu as nommés parce que j'ai souvent tendance à dire, moi, à chaque fois qu'une boîte double de volume, c'est le Dawa. Mais du coup, c'est là où j'étais presque surpris que vous arriviez à 80 sans...
Alors, un autre élément qui explique ça, c'est que moi, je percevais pas très bien... Enfin, ça m'énervait un petit peu aussi, tous ces discours sur la culture en startup au début. Enfin, j'avais un peu une... Enfin,
merci, je suis d'accord.
Je trouvais qu'il y avait parfois... beaucoup de pipeau. Je trouve qu'il y en a d'ailleurs beaucoup de pipeau quand on lit des blogs Medium sur la culture, etc.
Le fameux Startup Nation bullshit babyfoot.
Voilà. c'est souvent n'importe quoi, en fait. Et donc, enfin, si on peut donner un conseil aux auditeurs, ne lisez pas des blogs Medium sur l'entrepreneuriat. C'est souvent très creux et voilà. Et en fait, surtout, dites-vous qui l'écrit, parce que si c'est, je sais pas, un influenceur ou voilà, enfin, ça va pas être très fair, parce que le mec, il veut remplir, il veut juste mettre du contenu et donc il va remplir avec des choses qu'il a pas vécu lui-même, quoi. Dites-vous qui fait ça. Donc, sur la culture, d'ailleurs, il y a un excellent bouquin de Ben Horowitz qui s'appelle What We Do Is Who We Are, qui est un excellent bouquin pour définir la culture et qui est pas du tout bullshit. Mais voilà, il y a énormément de bullshit là-dessus. Plein de gens qui mettent des valeurs un peu extrêmes pour essayer de se différencier, ou des gens qui, en fait, je trouve, ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la culture. Et donc, j'avais un peu une réaction urticante là-dessus, et donc on s'est dit, non, nous, on va être un peu différents, on va travailler différemment, ce qui en soi était déjà une manière de définir sa culture. Mais et donc, on a un petit peu attendu à cause de ça pour bien définir nos valeurs. Probablement trop attendu, on aurait dû le faire avant. Et voilà. Et surtout aussi parce que moi, quand je lisais des articles sur Medium, ou je regardais des vidéos, etc., et même quand je le vois aujourd'hui, les gens disaient, voilà, faut que vous définissiez votre culture, faut que ce soit une culture forte, etc. Mais en fait, personne ne disait, mais en fonction de quoi ? Enfin, si, comment ? Il y a plein de gens qui le disent.
Ouais, okay.
Faites des brainstorms, faites le meilleur consensuel, etc., faire des sondages, faites des ateliers, etc. Ça, il y a 250 méthodes. Mais par contre, comment sélectionner les valeurs et comment s'assurer que les valeurs que vous allez sélectionner sont les bonnes valeurs pour votre entreprise ? Là, il n'y a personne. Il y a zéro. Nada. Et c'est ça, moi, qui me troublait fondamentalement. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, et le bouquin de Ben Horowitz est vraiment très bien là-dessus, parce qu'il commence à expliquer. Ben Horowitz, il dit, il y a l'adage qui dit culture eats strategy for breakfast. Et il dit, c'est du bullshit. C'est faux, en fait. La culture va découler de l'environnement stratégique, concurrentiel, des fonds levés, du business de la boîte. Parce que la culture est, en fait, un outil pour arriver à faire travailler ensemble des gens et avoir les bonnes personne pour accomplir un objectif. Donc aujourd'hui, pas mal de gens voient la culture comme quelque chose de total, enfin, un peu marrant, totalement, enfin, qui peut se créer, on peut décider la culture qu'on a. Moi aujourd'hui, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que, enfin, en tout cas, c'est pas une manière efficace de le faire. C'est mon opinion. Et c'est vrai que j'avais été beaucoup troublé par ce manque de rationalité là-dedans. En fait, les gens définissaient leur culture, mais en vue de quoi, pourquoi, enfin, tout le monde disait qu'il fallait avoir une culture et une culture forte, mais comment savoir quelle culture avoir, c'était loin d'être, enfin, personne n'en parlait, et c'est ça qui nous a un peu troublé aussi.
Ok. Et du coup, tu nous as dit un peu plusieurs piliers, le service client,
ouais.
Les autres.
Alors nous, on a notre culture, c'est le talk, team learning. En gros, alors c'est en anglais, hein. Nous, on est convaincus que c'est important que les gens apprennent chez Peppernest et apprennent aussi en équipe. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on veut que les gens apprennent, parce qu'on a pas mal de formations un petit peu formelles sur comment recruter, comment manager, comment faire du SQL, comment faire du growth hacking, comment faire du SIA, etc. Donc ça, on délivre des formations nous-mêmes en interne là-dessus. Et 80%, c'est un peu du learning by doing, c'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, et quand on voit une opportunité, on va les exposer à ça. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, un, on pense que c'est un peu le deal. Enfin, quand on vient en startup, on vient pas pour une problématique de santé. Enfin, générer de la croissance, c'est très dur. Scaler la croissance et la gérer, c'est aussi très dur. Donc voilà, faut se donner à fond. Mais le deal là-dessus, c'est que, en fait, les gens viennent en startup. Donc ouais, il y a un peu de boulot, mais qu'ils apprennent aussi beaucoup en même temps. Enfin, pour moi, c'est un peu le deal de la startup. Et deuxièmement, comme nous, on double taille chaque année. En fait, on a besoin que les gens croissent avec la boîte. On veut laisser personne derrière. On veut que les gens ils progressent avec la boîte. On a des gens qui sont arrivés stagiaires et qui aujourd'hui dirigent des BU de 50, 100 personnes. Voilà. Donc, c'est hyper important. En fait, les gens croissent avec la boîte. Haute valeur, l'ambition. Voilà. Enfin, on veut faire x10. On veut des gens qui ont l'ambition pour nos utilisateurs et pour la boîte, pour en fait avoir de l'impact, non pas sur quelques utilisateurs, parce que c'est bien d'avoir un super NPS, mais sur peu d'utilisateurs, c'est bien, mais ça va pas très loin. Ce qu'on veut, c'est apporter le plus de bien possible à plein d'utilisateurs. Donc, on veut avoir beaucoup d'impact. Troisième valeur, le lean, au sens lean startup. Voilà, on dit aux gens, on veut que vous ayez plein de bonnes idées. On va tester les 10 meilleures idées. Il y en a 7 sur 10 qui vont lamentablement échouer. C'est pas grave, c'est normal. C'est pas parce que c'est mal exécuté, c'est pas parce que c'est une mauvaise idée, c'est juste que c'est la vie. Il y en a une ou deux qui vont apporter des améliorations incrémentales, il y en a une qui peut changer le business. Et c'est arrivé plusieurs fois. C'est déjà la troisième fois dans l'histoire de Peppernest que sur la base d'une idée, d'une personne, aujourd'hui, on a des 200 personnes qui travaillent sur cette idée-là.
Alors, comment tu stimules ça, l'apparition de ça ? Parce qu'en général, les personnes que tu recrutes sont recrutées pour faire un certain job, c'est-à-dire que tu leur donnes des directions stratégiques et non pas des choses à faire. Alors, tu as des phases de créativité tous les X. Qu'est-ce qui fait l'émergence de ces idées et des tests?
En gros, c'est une bonne question parce que c'est hyper important de conserver cette agilité. Alors, c'est un peu grand gros de parler comme ça, mais en gros, il y a plein de boîtes qui sont très agiles au début et ne le sont plus du tout assez rapidement. Nous, la manière dont on a attaqué ce problème-là, c'est que d'une part, comme c'est au cœur de notre culture, on est prêt à faire des développements importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a développé Papercraft, qui est un langage qui permet aux produits, sans aucun besoin de l'équipe dev, de changer l'ordre des questions, de rajouter des questions, de changer l'ordre des pages, de faire des formulaires hyper complexes et très neufs, à la volée, sans aucun besoin des devs, ce qui permet de tester hyper rapidement. Par ailleurs, on encourage les gens à tester. C'est-à-dire qu'on leur dit que c'est okay, tout à fait OK d'échouer. Bon, bah, ils vont passer 10 ou 15% de leur temps à faire des choses qui vont pas marcher. Bon, bah, pas de problème. Ce qui est pas tolérable, c'est de pas tester, de pas tenter et donc de prendre aucun risque. Et voilà. Et ensuite, sur un petit peu justement la stratégie, on procède de deux manières. Évidemment, on va donner, il y a les OKR qui sont quelque chose d'assez top-down où management dit oui, faites ci, faites ça, etc. On le dit un peu pour structurer un peu la réflexion, mais aussi on attend que les gens qui soient sur le terrain, parce que c'est eux qui voient les clients, c'est eux qui sont en train de faire les choses, nous soumettent leurs idées, fassent les tests et avec très peu de ressources, c'est-à-dire qu'on ne va pas assembler une équipe cross-fonctionnelle d'un dev, d'un produit, d'un marketeur, d'un data pour tester un truc. Non, c'est une personne qui va aller voir des clients en un jour, en une semaine, va parler à des clients réels, ou internes ou externes, et va tester directement le produit. On trouve toujours un moyen très simple de le faire. Et si ça marche, là par contre, on aligne des ressources violemment derrière pour le scaler rapidement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on encourage ça et on dit aux gens quand ils viennent que c'est quelque chose qui est attendu et il n'y a aucun problème pour faire des tests et qu'ils échouent. Enfin, c'est ça, on tolère tout à fait l'échec, enfin, pas l'échec constant bien sûr, mais enfin, on encourage les gens à tester des choses et puis si ça marche pas et il n'y a pas de problème quoi.
Ok, c'est hyper intéressant et en effet c'est bien que tu expliques cette différence entre le pilotage par les OKR je pense, donc Objectives and Key Results, le pilotage aussi par les initiatives finalement de chaque personne dans la boîte pour investiguer ces sujets quoi.
Ouais. Je pense qu'il faut un dialogue entre les deux parce que le management peut avoir une vision très claire de ce qu'il faut faire, mais d'une part je pense que c'est un peu frustrant aussi quand les gens ont des bonnes idées et en plus comme ils sont proches du terrain, bah, ils ont souvent des bien meilleures idées, donc il faut impérativement pour les faire remonter, pour les tester, et ça qu'on essaie de mettre en œuvre. Voilà. Okay. Et après, la dernière valeur, c'est Customer Value Creation, donc créer la valeur pour nos utilisateurs. On a déjà longuement parlé, et le NPS qu'on a justement et découle de ça notamment. Et le dernier, c'est Caring and Meritocratic. On essaie de créer un environnement juste, où il n'y a pas de politique. Caring, c'est on essaie de prendre soin. On pratique beaucoup le radical candor, donc du feedback assez direct, mais toujours pour essayer de faire progresser les gens. C'est des valeurs qui sont importantes pour nous.
Très intéressant parce que elles sont aussi à la fois vers l'externe et l'interne. Mais d'un autre côté, elles se répondent pas mal aussi puisque la culture d'expérimentation et l'obsession de la qualité pour le client ou de la création de valeur pour le client, finalement sont intrinsèquement liées en fait.
Absolument.
Ok, super. Merci pour ces détails. On est allé un peu plus loin que les galères du début, mais c'est passionnant. C'est quoi les galères aujourd'hui quand il y a 800 personnes? C'est quoi ton job peut-être aujourd'hui aussi?
Alors le job effectivement il a pas mal évolué, il continue à beaucoup évoluer. Mon job aujourd'hui c'est je consacre plus de temps, enfin beaucoup moins de temps à l'exécution qu'avant, voire très peu maintenant. Enfin j'exécute très peu de choses moi-même, maintenant ça devient très rare. En revanche, le job, c'est s'assurer que la boîte va dans les bonnes directions stratégiques, de communiquer ça au sein de la boîte pour s'assurer que tout le monde est à la page et d'être à l'écoute des tests, des idées des collaborateurs pour quand on aperçoit une pépite, la saisir et la scaler brutalement. Donc ça, c'est hyper important. Du travail, évidemment, un peu relations presse, sur la culture et essayer aussi de s'assurer que chacun partage un peu la culture, nos manières de faire au sein de Papernest, et aussi un peu une dimension d'apprentissage au sens où moi je donne régulièrement des trainings sur la culture, sur comment recruter, comment manager au sein de Papernest. Et puis après il y a évidemment toutes les relations investisseurs qui prennent aussi un peu de temps et après c'est assez irrégulier, c'est-à-dire qu'en fait il y a des projets, on veut, donc je m'investis souvent dans quelques projets clés parce que je pense qu'ils sont clés pour la boîte et donc j'essaye de les faire avancer avec les équipes là-dedans. Et puis après il y a évidemment du management day to day où on discute d'organisation, on recrute des nouvelles personnes dans l'équipe et donc bah, là je suis aussi évidemment impliqué. Mais donc il n'y a pas vraiment de journée type aujourd'hui, ça varie énormément. Voilà, donc ça va de la communication à la stratégie à discuter d'organisation, s'assurer qu'on recrute les bonnes personnes dans l'équipe, diffuser la culture au sein de la boîte, partager la vision et puis ensuite bah, de temps en temps m'impliquer dans l'exécution de certains projets pour essayer de les faire avancer et d'apporter autant que possible de l'aide aux équipes.
Quand on grossit, les galères grossissent ?
Elles changent, on va dire. Je ne sais pas si elles grossissent. Par certains côtés, c'est... Enfin, d'un côté, plein de choses sont plus faciles, mais de l'autre côté, l'ambition grossit aussi. Donc, chaque année, nous, on fait 100% de croissance chaque année. Ça veut dire qu'en fait, chaque année, en un an, on doit recréer tout le travail qu'on a fait depuis la création de l'entreprise. Donc, chaque année, c'est un peu plus dur, mais chaque année, on a aussi une position de marché qui est de plus en plus intéressante, qui permet ça. Donc, ouais, chaque année, on doit recréer la même intensité de travail que ce qu'on avait fait dans toutes les années précédentes pour continuer à doubler taille. Donc, je dirais qu'elles changent. Je ne sais pas si elles sont plus grosses. Il y a plein de facteurs qui aident, mais en même temps, l'ambition grossit aussi. Donc il faut, ça reste un équilibre assez, assez précaire. Il faut continuer à bien se donner à fond pour y aller. Quoi.
Génial. Tu livres encore des box chez des clients maintenant ?
Alors non, j'ai un peu arrêté. En revanche, enfin après, aller sur le terrain pour aller interviewer des users, que ce soit des users finaux ou des fournisseurs ou des agents immobiliers, etc. Ouais, ça, je le fais encore régulièrement. Enfin hein, voilà. Et on a aussi une tradition chez Paperness, c'est issu de Capitaine Train, qui est everyone on support. En gros, tout le monde sur le support. C'est-à-dire que toute personne qui arrive à quelques postes que ce soit marketing, opération, RH, finance, peu importe, va passer une journée à faire du support client pour pouvoir parler directement avec le client. Et chaque année, on a une piqûre de rappel où une journée, la personne fait ça pendant une journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a implémenté en fait, depuis le début. D'une part, parce qu'au début, c'était nous qui le faisions et donc on n'avait pas trop le choix. Mais ensuite, on l'a fait perdurer chaque année et c'est une tradition qu'on conserve. Donc, pour effectivement garder un peu la main et le contact avec le client. Voilà. Parce qu'on apprend toujours plein de trucs. Et quand des devs ou du produit parlent à l'utilisateur et se rendent compte du problème concret, en fait, ça débloque plein de choses. Mais c'est aussi vrai pour des fonctions marketing, RH, finance. Voilà.
Bien sûr. Et on retrouve l'obsession de la qualité client ouais, à cet endroit-là. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous... D'autres conseils que les nombreux que tu as pu nous donner pendant cette heure et demie sur...
Ouais, alors j'ai quelques conseils pour des néo-entrepreneurs. Le premier, celui que je donne à chaque fois, c'est lisez vraiment le Lean Startup. Enfin, le simple fait de savoir ce que c'est que le Lean, c'est pas suffisant. C'est tellement dur le Lean. Enfin, le Lean, ça consiste à shipper un produit pourri. Enfin, voilà. Enfin, faut se dire les choses telles qu'elles sont, et d'essayer de le vendre à des clients. C'est très très difficile. En fait, quand les gens se lancent, ils ont envie de montrer à leurs parents, à leurs amis, la super produit qu'ils ont créé. En fait, non, le Lean, ça force à montrer un produit qui est vraiment pas au niveau. Mais pourtant, il faut le faire. Donc, lisez vraiment le Lean Startup. Ce livre, je pense, à Benoît et à moi, a changé un peu nos vies et la manière dont on travaille aujourd'hui. Et aussi, je pense, la trajectoire de la boîte. Si on ne l'avait pas lu, on serait probablement 10 fois moins nombreux. Donc, je pense que c'est hyper important. Voilà, après, il n'y a pas de secret. Hein, tester beaucoup, ça implique de pas mal bosser. Enfin, on était dans un coworking au début et pas mal de boîtes qui bossaient de manière... c'était du 9h-18h, 9h-19h. Bon, bah... Enfin, je pense que quand on se lance, faut être à fond. Enfin, il y a pas de demi-mesure. Enfin, il faut aller vite. Donc, quand on se lance, faut aussi se donner de la chance. Et donc, faut s'investir à fond. Parce que à la fin, même si on va d'échec en échec, et je crois que c'est Churchill qui disait que voilà, le succès, ça consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je pense que c'est assez vrai. Même au bout du 8e échec, ne perdez pas la foi, restez agile et il ne faut pas forcément s'entêter sur un test particulier ou un business model particulier, hein, faut pas hésiter à pivoter, mais vous finirez bien par avoir la chance aussi. La chance finit toujours par tourner, donc on n'est jamais à l'abri que ça marche bien, donc faites-le et voilà quoi. Et après, ouais, je pense demander aussi de l'aide, des conseils à des inconnus. C'est pas parce que vous avez pas de réseau que, en fait, enfin, moi aujourd'hui, je n'utilise même plus mon réseau quand j'ai besoin de conseils. Au début, je faisais beaucoup parce que je me disais, en fait, les gens vont m'aider parce que je viens de ce réseau. Mais en fait, non. Les gens, ils ont des jobs, ça les intéresse de voir des nouveaux projets. Il faut leur montrer par contre que vous êtes sérieux si vous dites oui, est-ce que je me verrai. Il faut arriver, il faut dire que vous allez vous lancer. Parce que si vous dites que vous êtes en train d'explorer l'idée, ils vont pas vous présenter à leur boss ou mettre en relation avec leur directeur commercial parce que si vous vous lancez pas, ils vont avoir l'air stupide. Donc quand vous parlez à des gens, vous devez leur dire que votre idée, vous allez l'implémenter, que vous allez créer votre boîte, ça c'est important. Mais n'hésitez pas, parce qu'ils vont vous apporter plein de choses et vous aider beaucoup, donc profitez-en, parce que voilà, la plupart des gens sont super sympas et dans le pire des cas, vous prenez un vent virtuel ou réel, hein, mais par email, et c'est pas très grave.
Génial, c'est très bon, des très bons conseils. Merci beaucoup pour tous ces apprentissages. Merci de t'être prêté au jeu, de revenir sur des histoires qui datent déjà un peu, hein, finalement.
Exactement, ça date. Mais merci à toi, merci aussi. Je pense que ça aurait été très cool de pouvoir écouter des podcasts comme ça lors de la création de la boîte. Donc merci, et puis voilà, merci d'avoir donné l'occasion de nous exprimer.
Bah, super. Et ben merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et on peut te contacter si on a des questions.
Exactement. Donc sur Twitter, parce que j'ai trop de relations LinkedIn maintenant, donc je peux plus en accepter. Oh là là, mais
star.
Sur Twitter, vous pouvez me contacter.
Bon bah génial. On n'y manquera pas. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Au revoir. Merci.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.